J'aime. Tiens, je m'entends pas. Si, je m'entends. J'aime. Tiens, je m'entends tout faible. Ah, est-ce que c'est mon retour qui est faible ou est-ce que c'est mon niveau qui est faible? Ah oui, attendez. Mais oui, c'est mon niveau qui est faible, c'est bizarre. Vous aussi, vous avez un niveau faible? Vous aussi, vous avez un niveau faible? Je m'entends très faiblement. Et est-ce que c'est un problème de retour? Ou est-ce que vous aussi, vous m'entendez faiblement? Oui, le son est un peu faible, bien sûr. Tiens, c'est étrange. Attendez. Ouais, non, c'est chez moi, c'est chez moi, c'est pas chez vous. Tout est au niveau habituel. Hop, on va éteindre le table de mixage et la redémarrer. On est de retour, c'est mieux. C'est peut-être mieux, non? C'est peut-être faible? C'est comment? Oh, je crois savoir ce que c'est. Est-ce que ça va ou pas? Ou c'est faible? Ou c'est plus faible que d'habitude? Oh, je crois savoir ce que c'est. Putain, c'est le coca. Non, ça va? Ça va ou pas? C'est faible? C'est faible? Oh la vache, c'est le côté où j'ai versé. Oh, en stream, hier matin, j'ai renversé du coca sur ma table de mixage. Et en fait, c'est sur la tranche 1 où il y a eu le coca. Merde. Donc sur le coup rien du tout et puis ça ouais c'est un peu séché quoi. Ouais. Alors on va changer de piste en priant pour que les autres. Oh là là. Putain, c'est la table de mixage qui va falloir changer quoi. Oi, bougez pas, on va changer la tranche. Ok, on va changer la tranche, on va partir. Alors est-ce que j'ai les mêmes réglages d'abord sur les deux tranches? Déjà, on va voir ça parce que si... Alors attendez, on va aller sur les... Donc là, au niveau déjà, on est... Ouais, déjà, on est beaucoup plus faible sur la deuxième. Déjà, je vais faire les mêmes réglages. Ah, à moins que je booste là. Non, ça va nous booster, c'est débile, ça va nous booster le fond sonore. Bougez pas, les amis, on va régler ça. Ok, donc déjà, je me mets au même niveau sur la 2. Ok, on va aller voir maintenant du côté l'audio processing. Voilà, on a peut-être les mêmes réglages, j'espère. Donc, par exemple, hop, ici. Alors, bonne nouvelle, je pense que j'ai les mêmes réglages sur la piste 2. Ouais, je l'avais déjà fait pour un autre truc, ça. Donc, ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir balancer. Voilà, là, par exemple, je suis à 27. Ouais, c'est exactement les mêmes réglages, d'accord. On va pouvoir passer sur la piste 2 en espérant que. Ok, bon, sur la. Bougez pas. Ok, on change le micro de piste. Hein? On est d'accord que le niveau est faible, hein? On est ok, hein? Qu'on a un souci, hein? Que le niveau est plus faible que d'habitude. Ok? Vous me le confirmez avant que je change de tranche? Que je change pour rien? Ouais, c'est très très faible, on est d'accord, hein? Ok, bougez pas. Ah ouais, laisse tomber la différence. Ok, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà. Ok? Ouais, on est d'accord? Ok, c'est mieux, hein? Ouais, je sais, ouais. Ok, ça veut dire que la tranche 1. Oh, je suis triste en fait, parce que bon. C'est cher ces trucs. Ça m'apprendra à être maladroit. Ouais, c'est le coca d'hier matin, ça. Sur le coup, vous savez, je me suis dit, tiens, à un moment, ça va faire. Et puis, ça va nous montrer que c'est tout cassé. Et en fait, bah, ça a pris 24 heures. Voilà. Donc, j'ai officiellement niqué ma tranche 1. Bon, alors, c'est pas trop grave, parce que c'est ma table de mixage du matin. Normalement, je suis pas censé recevoir 1000 invités là-dessus. J'ai 4 pistes là-dessus. Vous savez, comme j'ai prévu de recevoir des invités bientôt dans la rencontre chrétienne, on va tout de suite tester ensemble pour voir si la piste 3 et 4 sont toujours OK, histoire de savoir si je pourrais encore recevoir 2 invités ici, ce qui est un petit peu le... En général, c'est ce qui est prévu. On passe sur la piste 3. Bougez pas. Ouais, piste 3. Allez. La piste 3, elle me paraît bien aussi, la piste 3. La piste 3, c'est aussi bien ou pas? Est-ce que vous validez la piste 3? Ok. Piste 3, ok. Piste 4. Ouais, piste 4. Piste 4, impeccable. Ok, je repasse sur la piste 2. Ok, ça veut dire qu'on peut recevoir deux invités ici sans problème. Okay. Piste aux étoiles, ok. Voilà, piste 2. Normalement, on a les mêmes réglages, normalement, les mêmes réglages de... Ah, oh, ma piste 1. Alors voilà, RIP. Voilà. Je voudrais qu'on ait une pensée, une minute peut-être de silence, mais non, peut-être pas de silence, vu que c'est, on parle de problème de son, vous n'allez plus rien comprendre. Je voudrais qu'on ait une pensée émue pour la piste 1 de ma table de mixage qui a rendu l'âme. Voilà, merci pour les petits F que je vois dans le chat, c'est adorable. Voilà. Alors il faut prendre ça avec philosophie, c'est que du matériel bien sûr, mais enfin ça coûte bien 600-700 balles hein, ce truc. Mais ça m'apprendra à pas prendre soin de mes affaires. Ouais, RIP, la théorie du Coca Zéro sans danger, tarte tourte qui était là. Vous savez, moi je suis plutôt philosophe de nature et optimiste, et donc hier en renversant du Coca Zéro sur ma table, je lui dis, c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs il est là le Coca fautif. C'est pas grave, c'est du Coca Zéro, il n'y a pas de sucre. Voilà, donc, il n'y a pas de sucre qui va cristalliser, et normalement, ça le fait quoi. Voilà. Tiens, juste pour être sûr de nous, on va repasser sur la piste 1. Oh, la piste 1. Oh, la pauvre piste 1. Oh, nulle. Non, elle est morte. Ok. Bon. La bonne nouvelle, c'est que. C'est mignon. Il y a Santa Vegas qui dit, tu mettras l'invité chiant sur la une. Ah, je valide ça. On va faire ça. C'est-à-dire, en fait, quand je vais recevoir des invités ici, genre, on va dire, trois invités, on mettra les deux bons invités sur la 3 et la 4. Moi, je serai sur la 2, vous me ferez penser. Et on mettra l'invité chiant sur la une. Voilà. Bon, blague à part, c'est cool, parce que ça veut dire que. Là, je vous prévois les petites surprises en... Bon, petites surprises, j'en ai déjà parlé. Hein. Dans les prochains mois, on va de nouveau recevoir des invités dans la rencontre, Étienne. Il y aura notamment le président de l'ARCOM, hein, l'ancien CSA qui est l'ARCOM qui est compétent sur plein de choses en matière de télé, de radio, des temps de parole en politique, dans l'audiovisuel, d'Internet aussi. Il y a la question aussi de l'accès des images porno, par exemple, aux mineurs en France, l'ARCOM est partie prenante de cette réflexion. Donc l'ARCOM, en fait, a plein de choses à nous dire et puis a plein de questions que vous posez sans doute. Et donc, par exemple, le président de l'ARCOM va venir dans quelques jours ici, quoi. Donc on va se régaler. Donc imaginez, je reçois le président de l'ARCOM, qui a un peu l'habitude quand même de la chose médiatique, puisque c'est un petit peu son taf, qui vient ici et t'arrives avec une table de mixage qui marche pas, quoi. Ok, donc rip la piste 1, mais on a la piste 2. Voilà. Il y a Monsieur Malone qui me dit tu peux essayer de sauver ta tranche 1 avec du nettoyant contact séchage rapide de la marque W40. Ouais, il faudrait que je l'ouvre. Des petites vis là, mais bon. Ouais. Peut-être que ça va sécher, peut-être, non? Peut-être que ça va sécher. Pensez pas que ça peut sécher? Et qu'on peut la récupérer, qu'elle peut se récupérer toute seule? Est-ce que vous croyez à l'auto-résurrection en mode phénix de cette table de mixage? Est-ce que vous pensez qu'on peut la sauver? Oui, alors non. Oui, je sais, je peux la mettre dans l'urée, bien sûr. Il faut mettre la piste 1 dans l'urée, mais que la piste 1. Ouais. Ouais, en 24 heures, remarque, ça a déjà séché, ouais. Oui, les lutins vont venir, me dit Bérangère. Ouais. Ouais. Peut-être que la mia forea peut aider aussi, c'est vrai, ouais. Ok. Bon, en fait, bon, il nous reste trois pistes. En vrai, c'est fine, quoi. Voilà. Ça va. Ça va. Tout va bien. Bon. Zut. Ça m'apprendra à pas prendre de soin de mes affaires. Bon, comment ça va, vous? On est sur un horaire un petit peu. Je vais pas passer non plus 3 heures sur ma table de mixage. On est sur un horaire un petit peu étrange. Qui, les habitués le savent, en fait, vient d'une bonne résolution. C'est-à-dire que les 2 dernières années, quand j'avais 7 jours par mois les enregistrements des tournages de questions pour un champion, eh bien, je ne streamais pas. Hein, parce que, ben, en fait, en gros, j'arrive à 8 heures au studio le matin, même en ayant le temps de lire les journaux avant, je suis battu, quoi, pour lancer un stream à 8h30 ou à 9h, quoi. En étant en plateau, en gros, ça dépend des journées, mais on va dire de 9h à 19h, quoi. Donc c'est râpé. Et en même temps, ça m'embêtait, en fait, d'être un streamer qui, au moins 7 jours par mois, ne pouvait pas être là. C'est beaucoup, 7 jours. Et donc j'ai réfléchi à tout ça, et puis on en a parlé ensemble, d'ailleurs. Je me suis dit, mais ça pourrait être quoi la solution? Et on s'est dit qu'un petit stream du soir, voilà, avec mes lectures du matin, parce que le réveil a quand même sonné à 5h du matin ce mercredi, c'est ça, on est mercredi, pour pouvoir lire les journaux. Eh bien, un petit stream du soir, avec les journaux du matin, mais en allant chercher aussi un petit peu sur Internet, sur les bons sites qui vont bien, les infos qui auraient éventuellement évolué dans la journée. Notamment, par exemple, on attendait des déclarations du président Macron aujourd'hui sur la question de la Constitution. Voilà. Eh bien, ça pouvait le faire. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Par ailleurs, un jour, dans pas longtemps, quand je vais recevoir mon setup de gamer, eh bien, je vais me mettre aussi de temps en temps à jouer aux jeux vidéo pour vous faire rire, puisque non, un petit stream du soir, pas un petit string du soir, Elisoui, un petit stream du soir. Le petit string du soir, c'est autre chose. Et donc, pour vous faire rire, comme je me suis plongé à corps perdu dans l'univers du jeu vidéo avec mon émission du dimanche soir, ça me plaît, eh bien, de temps en temps, je vous ferai rire et je jouerai à, je sais pas, moi, The Witcher. On jouera à Rocket League. On jouera à Mario Kart, on jouera à ouais, F1 23, qui m'a surpris. Moi, j'étais nul, mais j'ai aimé. Voilà. Donc c'est prévu. Voilà. Et puis ce sera ben, un peu au déboté, à l'improviste, un petit stream de gamer où vous me verrez pas très bon et en écoutant vos conseils pour devenir meilleur. On fera ça. Ouais. Et sachant que dimanche prochain, il y a un nouveau Ça me plaît, bien sûr, avec un invité que je n'ai pas encore dévoilé, que je vais dévoiler demain sur les réseaux sociaux, mais je peux déjà vous dire le jeu, puisque ce sera World of Warcraft. Voilà. Non, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit encore. Donc ça, c'est le programme. Mais ce soir, on est en mode actu, parce que de toute façon, j'ai pas reçu encore mon setup, voilà, de gamer que je vais installer ici. C'est-à-dire que je pense que je vais me servir de mon PC portable pour streamer. Voilà. Le PC, il va être pour jouer. Peut-être que je vais devoir investir un petit peu dans les consoles aussi. Enfin bref, voilà.
Je vais mettre une petite carte d'acquisition. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et puis Joe va m'aider un petit peu à l'install. Et puis vous m'aiderez aussi un petit peu dans les réglages. Parce que pour le coup, ben moi, j'ai jamais streamé du jeu vidéo, quoi. Il y a Inforea qui vient d'arriver qui dit: est-ce que la table de mixage est sauvée? Ben, en fait, Inforea, on a lancé le stream et puis on s'est rendu compte que le son était très très faible, était très 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 étouffé. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc, j'ai éteint et redémarré ma table de mixage. Et puis, je me suis rappelé qu'après, j'avais imposé une douche au Coca zéro à cette table de mixage hier matin, au niveau de la piste 1. Et cette piste 1 était totalement étouffée. Voilà, donc je pourrais te montrer, mais j'ai déjà saoulé tout le monde avec ça. Donc, on a un son qui est bas, qui est étouffé. Et alors, par chance, je me suis dit, tiens, avec un peu de chance, les autres pistes, puisque le Coca était quand même très localisé sur le coin bas gauche de la table de mixage, qui est une Rode, Rodecaster Pro, et on est passé sur la piste 2, et c'est nickel, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sent le démontage et nettoyage complet pour être sûr. Ouais. Tu crois que ça peut se. Tu crois que c'est simple? Bon, moi, 2, 3, 4, ça me suffit comme. Après, si je récupère ma piste, moi j'aime pas trop jeter les choses, j'aime pas abîmer les choses, j'aime pas acheter pour acheter. Si tu me dis un foréa qu'on peut, qu'à ton avis on peut nettoyer simplement la piste 1, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Tu veux passer à la maison? Salut Kitagawa, je vais vous lire, hein, je vais arrêter de parler de mes petits soucis. Hein. J'attends le retour d'un foréa. Je vais remercier la TOT pour ce 14e mois d'abonnement. Je me lance dans un live ce samedi. Quoi, la tote, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens streamer, streameuse? Je prends les bons tips ici. Au niveau du son, t'es peut-être pas au meilleur endroit. Tout peut se sauver, dit Inforéa. On en reparle après ton live. Je suis moi-même en live et invité. J'y retourne. Bonne soirée à tous. Salut Inforéa. Ok, c'est gentil, c'est adorable. Ah oui, il est un peu vers Lyon. Il est un peu vers Lyon. Donc, merci beaucoup, la Tote. Merci à Bracor pour le 24e mois d'abonnement. 2 ans, c'est quand même énorme. Merci à toi. Gad. Non, c'est Gabdag. À chaque fois, je fais. C'est pas Capdag, hein, c'est autre chose. C'est Gab. Non, c'est Gad. C'est un B. C'est Gabdag. Désolé d'écorcher ton pseudo. Il est dur en même temps avec ces D et ces B qui sont juste collés. On te l'a déjà dit ou pas? Merci pour le 3e mois d'abonnement. Babadiz nous donne un conseil. Essaye de nettoyer à l'alcool isopropylique 99. C'est fait. C'est pas conducteur, ça s'évapore complètement. Waouh! Ah ouais, mais attends. Faut que je démonte la table, là. Ça a l'air simple, Marc. Il y a 4 vis sur le dessus, là. Petite clé Allen, petite clé BTR, là. Ouais, pourquoi pas. Ok. Donc, je prends en note ton message. Ça veut dire que je prends en photo ton message. Vous moquez pas. Voilà. Veliwis, merci pour le 7e mois d'abonnement. Romtan, merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement. Matt Le Basque, merci pour le 3e mois d'abonnement. Alexandal 80, Alexandrie. Ah, il y a 4... Je suis en pleine forme. Merci pour le 14e mois d'abonnement. Julien Ige, merci pour le 18e mois d'abonnement. Amorbi7, merci pour le 11e mois d'abonnement. Mais c'est quoi tous ces subs? Oh, vous êtes gentil, vous voulez me payer une nouvelle table de mixage? Ronan, non, merci pour le 26e mois d'abonnement. Romain Fournier, Minos, LRC7N, merci beaucoup. Et à l'instant, Doudou 2308, Pierre-Yves, les habitués sont là. Merci pour l'abonnement, pour le 18e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Comment s'est passé l'enregistrement de questions pour un champion, Palomé? Très bien, très bien. Donc là, j'ai repris une session de 7 jours. En général, on tourne pendant 7 jours. Donc là, on est mercredi. Jeudi, vendredi, en général 6 émissions par jour, et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, de nouveau 6 émissions par jour. Voilà, une petite session de 7 jours, et je vais essayer de streamer le soir, ce que je ne faisais pas avant. Et vendredi soir, d'ailleurs, on aura l'hebdo Étienne. L'hebdo Étienne avec. Est-ce que vous avez vu les invités? Je l'ai posté ce midi, d'ailleurs, depuis ma petite loge de questions pour un champion, voilà, avec mes petites mains, parce que c'est moi qui fais mes visuels, j'aime bien ce côté artisanal. Bim! Voici. Pour vous, vendredi soir, c'est dans 48 heures, en fait. On reçoit Marie Palot, habituée de la chaîne, amie. Marie Palot, qui revient donc pour la deuxième ou troisième fois. Manon Mella, journaliste de France Info, que vous avez beaucoup aimé, qui est venue il y a quelques semaines, qui revient, voilà, pour la première fois. Dans l'hebdo Étienne, Max Hildan, voilà. On s'est croisé en vrai une fois ou deux, notamment chez l'ami Jiraya, notamment au Grand Quiz récemment. Voilà, mais c'est la première fois qu'on fait vraiment un truc. Donc Maxi Dan vient à la maison. Et l'humoriste Alison Wheeler, que certains connaissent bien de quotidien. j'ai la ref, Pierrot le crabe, j'ai la ref. Alison Wheeler, l'humoriste de quotidien, qui vient de décider d'arrêter justement quotidien pour se consacrer à son premier spectacle. Eh bien, Alison Wheeler, elle sera notre invitée pour la première fois. Voilà. Même d'avant quotidien, me dit-on. De YouTube. De YouTube. Ouais. Étoile a dit dans sa dernière nuit de la culte que ça allait, il allait s'inscrire, me dit Choupi. Non, non. Étoile, ça fait 3 ans qu'il dit dans sa nuit de la culture qu'il va s'inscrire. Je l'adore. C'est quelqu'un que j'aime, en fait. Je trouve que c'est un garçon formidable. Il est brillant. Il est intelligent. Il est, c'est une belle âme. C'est un joli cœur. C'est une très belle personne. C'est un tryharder. C'est un mec super investi. C'est un passionné. C'est, bref, c'est Rayou. Mais quand Étoile dit... Ça y est, je vais m'inscrire. Non, c'est parce que vous connaissez, c'est parce que vous n'êtes pas un habitué. Rayou, il dit ça depuis que je le connais, en fait. Voilà, donc, c'est pas parce qu'Étoile vous dit qu'il va s'inscrire, qu'il va s'inscrire. Dans sa tête, il va s'inscrire, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Elle est belle cette line-up ou pas ? Baldur's Gate, bien sûr, qu'à un moment, Mademoiselle Mission, on va jouer à Baldur's Gate, bien sûr, bien sûr. Elle vous plaît cette line-up ? Elle vous plaît ? Voilà, c'est comme quand il dit dans 5 minutes, encore 5 minutes de stream et j'arrête, c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Dans 2 ans, il s'inscrit. Peut-être, peut-être. Moi, je lui dis, Rayou, viens, mon ami, viens jouer. Avant, je lui disais pas ça. Je lui disais pas, je lui mettais pas la pression. Je lui disais, tu viens quand tu veux, hein, tu fais bien ce que tu veux. Hein. Aujourd'hui, je lui dis, viens jouer. Viens jouer parce que, qui sait, peut-être que je vais pas présenter Question pour un champion pendant 1000 ans. Hein. Moi, j'adorerais présenter ce jeu que j'adore jusqu'à la retraite, mais comme je l'ai toujours dit, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Donc peut-être qu'un jour on me retirera ce jeu, je ne sais pas moi. Hein. C'est pas moi qui décide, je suis pas propriétaire ni de la case, ni de jeu, rien du tout quoi. Et donc je serais super triste en fait de louper ça. Ah putain, le rêve quoi. Animer une émission à Question pour un champion, viens jouer Étoile, imaginez. Hein, je rate le truc quoi. Donc là maintenant je dis à Rayou, maintenant tu viens jouer quoi. Tu viens jouer, parce que je commence à flipper un peu en fait. Pas qu'il vienne pas jouer, il va jouer un jour, mais qu'il vienne pas jouer avec moi quoi. Voilà. C'est mignon, il y a Murph qui dit jamais ils vont t'enlever, tu as tellement rajeuni l'émission malgré ton malgré ton grand âge. T'es con hein. Merci beaucoup Alexandra pour ton conseil sur la table de mixage, c'est adorable. Plus 20% d'audience le jour où il passe. Choupi, il y a 2 ou 3 ans, vous m'auriez dit, ouais, Rayou, dans Question pour un champion, c'est forcément un banger d'audience et tout. Je vous aurais dit, les gars, non, arrêtez. La télé, c'est un vieux truc, mais qui vieillit doucement, qui est encore très puissant. Question pour un champion, c'est tous les soirs en moyenne 1,4 million de téléspectateurs. En moyenne, pas en pic, pas en visiteur unique, unique, pas en viewer unique, non, 1,4 million en moyenne sur tout le long de l'émission. C'est vieux la télé, mais c'est encore très puissant, quoi. Donc, même un stream super puissant, je sais pas, un bon stream de, tu vois, de 10 000 personnes, de 20 000 personnes, allez, soyons fous, 40 000 personnes, allez, allons voir les talks qui désinguent tout, les popcorn, les zen, des 80 000 personnes, des 100 000 personnes, bah en vrai, sur 1,4 million, bon bah oui, ça peut me faire frémir le truc. Mais en fait, je suis pas sûr. C'est ce que je vous aurais dit il y a 2 ou 3 ans. Mais maintenant, je dis aujourd'hui qu'il y a une telle histoire entre Rayou, Étoile et Question pour un champion qu'effectivement, je me dis que peut-être, le jour où il viendrait jouer, si ça a été un peu prévenu, annoncé, oui, il pourrait se passer un truc au niveau de l'audience. Et puis même s'il se passait rien au niveau de le live, de l'audience, je m'en fous parce qu'en fait, ce serait juste un moment formidable. Quoi. Voilà. Voilà, j'y crois vraiment. Mais c'est bon, mais en vrai, c'est pas pour ça que je veux que Étoile vienne jouer. C'est juste que humainement, en fait, j'ai envie de jouer avec Étoile. J'ai envie qu'il vienne à Question pour un champion. J'ai envie qu'il cartonne. J'ai envie qu'il performe. J'ai envie qu'il casse tout. J'ai envie qu'il devienne champion. Et que voilà, et que dans la rue, quand il se promène d'un pas nonchalant, voilà, d'une démarche un peu féline, un peu élastique, avec son regard de conquérant un petit peu perdu dans le vague, là, voilà, les gens chuchotent. Sur son passage, en disant ouais, regarde qui regarde, c'est Étoile, ouais, c'est le streamer qui a gagné. Question pour un champion, c'est une machine. Ah oui, sur le truc quoi. Voilà. J'aimerais le vivre en fait, humainement ce truc quoi. qui viennent sur mon plateau. Dépêche-toi, Rayou, dépêche-toi. Imagine que je ne suis que. Voilà. Viens jouer, quoi. Viens jouer. Bon, en tout cas, la line-up semble vous plaire. Tout le monde connaît Marie Palot, ok. Tout le monde connaît Max Hildan, ok. Tout le monde connaît Alexon Wheeler, ok. Tout le monde connaît Manon Mella, ok. Ça vous va? Des questions? Des remarques? Ouais. Je les connais tous, me dit MMG. Camille Intégral connaît tout le monde. J'adore Alison Wheeler, me dit Edvisa. C'est qui tout à gauche? Qui me pose la question? Erim, à tout à gauche, c'est dans le milieu. Dans le milieu de. Dans le milieu tout court d'ailleurs. On l'appelle le beau gosse. C'est un nom de code. On ne prononce pas trop son nom d'ailleurs parce que. Voilà, c'est quelqu'un d'un peu mystérieux. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères autour de cette personnalité qui est. On l'appelle le beau gosse. Voilà, appelez-le comme ça. C'est son nom de code. Je ne connais pas Max Hildan. Vous êtes quelques-uns à me dire Saberan, Décadragme. Qui ne connaissent pas Max Hildan. Est-ce que quelqu'un peut présenter Max Hildan aux autres, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, est-ce que tu peux. Ouais, Nico Manga me dit est-ce que tu peux mettre un petit extrait de studio Bagel avec Allison pour montrer. Ouais, on peut faire ça. Si on dit son nom trois fois devant son miroir, il apparaît. Qui, Bogos? Voilà, Captain Lotan nous présente Max Hildan, pour ceux qui l'ignoreraient. C'était l'animateur de la chaîne Le Stream de Webedia qui a fermé en juin dernier. Manon Mella, je ne connais pas. Manon Mella, journaliste de France Info, radio excellente, qui a animé toute l'année dernière un stream quasi quotidien du lundi au vendredi de 18h à 20h sur la chaîne Twitch de France Info qui était consacrée à l'actualité. Voilà. Voilà. Max Hildan qui a fait partie de Eclipsia avec Gigi et Zulu, me dit Niku Manga. Voilà. Alors oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a Lama, j'attendais ce message. Il y a Lama Gijuana qui dit Max, donc Max Hildan, c'est le polémiste. Ça va régaler. C'est en gros un présentateur Twitch depuis 10 ans. Il polémise un peu tout, ou joue souvent l'avocat du diable tout en relativisant un point de vue intéressant, je trouve. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Et Marie Palot, youtubeuse, streameuse, présentatrice aussi, elle a travaillé en télé, elle travaille toujours en télé. Voilà. Et alors, quelqu'un m'a proposé, c'est une très bonne idée, d'aller voir par exemple un extrait de ce qu'a pu faire Alison Wheeler. Alors, elle a beaucoup travaillé à quotidien, hein. Mais également, elle a fait des choses au studio Bagel. On va essayer de trouver une petite vidéo au pif, hein. Au pif, j'espère que ça va être sympa. Tintintin. Alors, j'en ai plusieurs. Vous allez me dire si vous en connaissez une. J'ai le dernier verre. Attendez, on va faire vidéo. Hyper satisfaction. Ou alors, avec Monsieur Poulpe. J'adore. Rocking Chair. Alors, souvent elle est associée à avec Poulpi. Ouais, avec Poulpe, vous avez raison. je ne l'ai pas vu et on sent déjà que ça va être une dinguerie. Monsieur Poulpe, Alison Wheeler, Studio Bagel Production. Le sketch s'appelle Ou alors. C'est parti. Alors vous allez vous moquer de moi, hein. En fait, j'ai pas consommé, moi. Je connaissais pas ça, Studio Bagel, là. Ouais, désolé, en fait, j'ai un peu honte, en fait. Putain, j'ai loupé ça, quoi. J'étais où? Je devais en train de lire des vieux journaux, quoi. Mais non. Mais si, Caroulou, on va lire des journaux, mais... Putain, mais je connais pas, quoi. En fait, je l'ai lu, ça, Studio Bagel, tout ça. Mais je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je devais dire, ouais, genre West France, quoi, le monde, tu vois. Oh là 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 là. Bon, Kira, merci beaucoup pour le 12e mois d'abonnement. Stone 2, merci pour le 10e mois. Maël QSD, merci pour l'abonnement offert à E, Lenéaze. Keliga, merci pour le 11e mois. Doudou 2308, merci encore. Grâce à vous, je vais peut-être pouvoir me racheter une table de mixage que j'ai renversé du coca dessus. Voilà. Attends, j'ai honte. Bon, on va se faire une petite revue de presse du soir, hein. Le studio Bagel, c'est l'héritier de l'esprit Canal Pré-Bello. Mais comment j'ai pu rater ça? Qu'est-ce que je foutais? C'est à quelle époque? Wikipédia, viens à mon secours, Wikipédia. Studio Bagel. On dit bagel ou bagel? Parce que le sandwich, on dit un bagel. Ou comment vous prononcez, bordel? Truc de jeune, là. Bagel, moi je dis bagel. On dit bagel. On dit ta gueule. Mais on dit comment? Bagel? Comment vous prononcez-vous? Bah, ah, vous dites bah, vous. Mais pourtant, on dit un bagel. Le sandwich, non? Ah, il y a plein de gens qui disent bagel aussi. Donc, on dit studio bagel, comme un bagel. Voilà. Comme dans ta gueule. On est d'accord. On est d'accord. C'est bien. Ah, alors le studio, c'est bagel. Saberan dit, le sandwich, c'est bagel. Mais le studio, c'est bagel. Ah, les deux coexistent. Ah, c'est pas facile ça. Ah, j'aime pas ça. Indochine, la guerre, pas le groupe, ça m'a tué. Ouais, c'est vrai que c'était bon. Alors, studio bagel. Ah! Bah, on dit bas, on dit. Ah, on dit bag. Ouais. Selon Wikipédia, on dit bagel. C'est marqué en phonétique. Je vous mets Wiki. Alors, bagel pour les gens comme moi qui ont 90 ans et qui ne savent pas ce que c'est. Studio Bagel, label de Canal+, dédié à la comédie, société de production du visuel, agence de publicité native, ok. Fondée autour d'un collectif d'humoristes. Créé en 2012. Qu'est-ce que je faisais en 2012? C'était il y a 10 ans, 11 ans. Donc, c'était avant Question pour un champion. Je présentais le 12-13. Ok, ouais, je présentais le 12-13, donc j'étais vieux dans ma tête. Voilà. En fait, j'ai intellectuellement, j'ai rajeuni depuis cette époque. J'étais très très vieux dans ma tête, il y a 10 ans. Ok, donc c'est pour ça. Donc, 11 août 2012, pour faire une chaîne premium sur Internet, hein, créée à l'humour, la chaîne recrute alors 11 vidéastes, comédiens, humoristes populaires sur Internet, tels que Jérôme Niel, Monsieur Poulpe. On dit Mister V ou Mister V? Je sais jamais. Putain, la prononciation, ça. C'est un truc, je déteste écorcher. On dit Mister V ou Mister V? On dit V, hein? V, ok. Je savais qu'il y avait un piège. Kemar Natou, ainsi qu'une équipe de réalisateurs et d'auteurs pour la plupart issus du web, tels que Ludoc, Axel Malivernet ou encore Tariq Sedak. Ok. Premier sketch, le jeudi 15 novembre, les Chinois contre-attaquent. Déjà, j'ai envie, ça. Il y a Nat qui me dit, oui, mais on a déjà eu ce débat, Samuel, sur Mister V. Oui, mais j'oublie, moi. Hein. N'oubliez pas l'âge aussi. Hein. Et studio Bagel. Oh, Bagel. Bagel. Bagel comme dans ta gueule ou Bagel comme bagel? Qu'on tranche ce débat. Bagel. Bagel. Ah oh non, mettez-vous d'accord. Bagel comme j'avais. Non. Bagel. Bagel comme Babybel. Bagel. Bagel. Comme Babybel, ok. Bagel à la française. Oh, vous faites chier, hein. Bon, je vais le dire comme je veux alors. Au pif. Donc, le studio Bagel s'impose comme une des chaînes YouTube les plus populaires en France. Ah, c'est intéressant. Donc, à la deuxième saison 2013, le studio Bagel est approché par la chaîne Canal+ pour produire trois pastilles humoristiques, d'accord, diffusées dans les émissions Le Grand Journal et Le Bifor. C'est pour ça que vous me disiez qu'Alison était dans Le Grand Journal. D'accord, je comprends. Tout en continuant de produire des sketchs sur YouTube. Ok. Et le groupe Canal+ rachète d'ailleurs 60% du studio, du capital du studio Bagel. Ok, en 2014. Genre. Quoi, 2 ans après leur création, ça cartonne, ça cartonne. Ok, c'est intéressant. Et ça existe toujours ou pas? Si je vais sur YouTube, va sur YouTube, ça me l'étonne. Si je vais sur YouTube, votre historique de vidéos regardées désactivées, bah, tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes. On sait jamais, hein. Studio. Ah, c'est bagel. Alors, est-ce que ça existe toujours? Ça existe toujours? Alors, ça doit pas être la même chose. C'est quoi cette daube? Ça va pas être le... Si, c'est le même? C'est quoi ce truc? Si, là, il y a des humoristes, là. Mais c'est quoi ces dessins animés, là, au début, là? C'est quoi? C'est de la pub? C'est quoi? Oh là là, je comprends rien. C'est un truc moderne, là. C'est quoi cette merde? C'est quoi ça?
Pourquoi je ferais une chose pareille?
Parce que vous êtes en liberté conditionnelle.
C'est vrai.
C'est un dessin animé pour les adultes? C'est un truc humoristique?
Alors, dans une démarche d'éducation à une...
Bon, je prends vous regarder ça, moi. Donc, il y a encore des... Il y a 2 semaines, il y a eu un truc avec Camille Cotin. Il y a des trucs encore, alors. Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut que je regarde? Oui ou pas? Il y a encore des trucs? Vidéo, les plus récentes, d'accord. Ça, y a des, on va essayer de trouver un truc drôle pour voir. Bon, c'est drôle, oui. Tiens.
Ah, ah. Oh.
Oh.
Combien de temps ça reste en bouche comme ça?
2 ans.
Non, 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 non. Okay. J'ai horriblement chaud. Tu sais, mes cheveux, j'ai besoin d'une chapka. Hé, hey, connard.
Ça va?
Je m'en fous. Je veux même pas avaler que déjà, le truc, ça m'arrache la gueule.
Mais je veux du sketch, moi. Je veux de la dinguerie, moi. Qu'est-ce que... Vous me conseillez un truc, là? Merci, monsieur Philippe Maurice, pour le gentil raid. Je suis perdu là, je suis perdu, mais il y a plein de trucs. Ça a l'air drôle.
Bon, écoute, good news, j'ai passé le Rubicon, je vais faire mon premier film en tant que réal.
Putain, ça défonce, tu vas faire Serge Lang.
Non, je vais pas faire Serge Lang en tant que réal, je vais faire Jonathan Cohen Movies.
Bon, bref, autant pour moi, excuse-moi, vas-y, dis-moi.
Donc, concrètement, voilà, c'est une histoire entre une végane. Voilà, qui tombe amoureuse d'un gars qui est complètement dingue de porc, donc vraiment rien naf, tu vois. C'est vraiment un Roméo et Juliette dans l'agroalimentaire, tu vois, vrai sujet. Et donc ça va s'appeler Roberto et Gula, hein, t'as compris. Et Roberto est belge, donc du coup...
Putain, mais ça a l'air, mais complètement...
J'ai pensé à toi pour le grossiste en porc.
Ok, ouais, pas de problème avec ça.
Voilà, c'est pas un grand rôle, c'est un petit rôle. On est sur quoi, allez, 5 secondes à l'écran, c'est vraiment, il arrive, voilà. Mais c'est la charnière du film, tu vois, c'est vraiment un rôle charnière. Mais c'est à toi.
Je te le fais.
Tu le fais?
Direct.
Vraiment, je suis trop content.
Comment t'as pensé à moi, du coup?
J'ai pensé à toi. Alors, attends, j'ai vu un film avec toi.
C'est une blague?
Ouais, c'est une blague. Oh, merde. Écoute, non, écoute. Je te jure, j'étais trouvé, mais méritant, mais comme jamais. Parce que le film, on est d'accord, c'est une bouse rénale. On dirait que c'est filmé avec un yep. Ça joue comme des patates, vous êtes tous nuls. Mais toi, dedans, tu joues faux.
J'adore.
Mais c'est bien.
Je peux utiliser une mot fort avec toi?
Vas-y.
C'est un très très beau compliment que tu viens de me faire.
C'est vrai, mais tu sais que c'est ça, un bon réel. Un bon réel, tu vois?
Ouais.
C'est un gars, c'est un maraîcher, c'est pareil, tu vois, on lui apporte un navet, au maraîcher, il lui voit pas le navet, il voit les fibres, tu vois?
Hein?
Moi, j'ai vu tes fibres.
Ouais.
Ok, c'est qui?
Ça, c'est Alain qui s'occupe un petit peu, si tu veux, de tout l'aspect créativo-financier un peu de ma carrière.
D'ailleurs, au niveau du budget, tu comptais mettre quoi pour le rôle du porc qu'il va faire?
C'est direct. c'est tout de suite. T'inquiète pas pour ça, honnêtement.
Volo.
J'en attends. Pour moi, c'est... Chut, tu vois, j'attends, je le fais gratuit pour que ça serait...
Non, mais tu vas rien faire gratuitement. T'avais pensé à quoi pour le rôle que tu lui proposais?
En fait. T'as des dettes ou tu... La coupe, bon. Je sais pas, parce que moi j'ai eu des petits soucis.
Non, c'est juste que...
Ça a l'air très sympa, mais ça fait 23 minutes. Bon, en tout cas, j'ai découvert qu'il y avait une chaîne YouTube, Studio Bagel, qui a plus de 10 ans, et je suis un petit peu en retard. Bon, et ben c'est pas maintenant que je vais rattraper mon retard. Je vais pas vous infliger ça, j'ai quelques journaux à vous lire. Désolé, c'est un part dans tous les sens, hein, entre table de mixage qui a rendu l'âme et mes découvertes, avec un petit peu de retard. Bon, mais voilà, il me faudrait quelques vies en plus, je crois, pour rattraper tous les retards que j'ai. On y va? Un petit sommaire? Ça vous dit quelque chose? J'ai tellement envie de faire du React. Attends, il faut absolument que je trouve un programme pour faire du React. Il faut que je trouve un programme pour faire du React. j'ai envie de regarder des trucs avec vous et dire que des âneries. Et Dieu sait si j'en ai à dire. Qu'est-ce que je pourrais faire comme react? Enfin, très envie. Allume-toi, petite table. Voilà, c'est prêt. On y va? C'est parti? Allez, un petit sommaire, les amis. Vous qui n'avez pas forcément 2 heures à me consacrer, eh bien, je vais vous donner l'essentiel de l'actualité qu'il y avait dans les journaux de ce matin. Et on va actualiser aussi, bien sûr, ces actus. Alors, ce matin, j'étais un peu intrigué par ça. Bon, la politique, c'est plutôt des idées, des valeurs, comment on essaie de s'adapter aux évolutions du monde. C'est pas forcément des histoires de personnes. Enfin, ça m'intéresse pas trop, en fait. Mais, justement, j'étais un peu surpris par tous ces articles sur... c'est quoi son prénom ? Sonia ? Sonia Chikiro, qui est une responsable, une élue La France Insoumise. Voilà. Et je vois des papiers, notamment dans Le Monde, un gros papier, là c'est Le Parisien, sur l'affaire Chikiro. Bon, bah alors je me dis, c'est Sonia ou c'est Sophia ? Ah, c'est Sophia. Vous voyez, comme quoi les histoires de personnes ne m'intéressent pas beaucoup, parce que je vous avoue que ça ne me passionne pas, ça, à la base. C'est Sophia, ok, merci. Donc, je vois un gros papier dans Le Parisien sur la France Insoumise engluée dans l'affaire Chikiro. Je me dis, c'est une histoire de personnes, ça ne m'intéresse pas trop. Et puis je vois un papier de 2 pages dans Le Monde. De 2 pages dans Le Monde. Bon. Pourquoi la justice enquête sur la députée de la France Insoumise, Sophia Chikiro, voilà. Et je lis, selon les informations du Monde, donc c'est Le Monde qui a un petit peu enquêté, l'élu, donc elle est députée hein, de Paris, et ancienne conseillère en communication, devrait être prochainement entendue en vue d'une éventuelle mise en examen pour escroquerie aggravée. Et là, je me rappelle d'histoire, en fait, effectivement, et je me dis, ah bon, d'accord. Alors si, je me dis, voilà, un peu, je vous dis comment ça l'a fait dans ma tête, mais si Le Monde consacre 2 pages à cette histoire, peut-être que c'est intéressant. Donc on verra, eh bien, ce que la justice reproche, a priori, même s'il n'y a pas le jugement encore, hein, on attend, bien sûr, à la députée LFI Sophia Chikiro, qui, si j'ai bien compris, est une proche de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Jadot me dit c'est Chikiro qui a arnaqué la France Insoumise. La critique n'est pas sur LFI, c'est les victimes. Et Pépin Camille me dit que demain soir, il y a un complément d'enquête sur France 2 sur cette députée Sophia Chikiro. Effectivement, le Parisien d'ailleurs en parle. Donc on lira cette histoire pour voir un petit peu ce qui se passe. À un moment, je me dis si mes confrères y consacrent autant de pages, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. On va essayer de comprendre lequel. Ça, c'est un truc qu'on va actualiser puisque vos journaux en parlaient beaucoup ce matin. Constitution, le président Macron attendu sur le référendum, puisque l'Élysée avait promis des annonces aujourd'hui pour répondre au déficit démocratique à l'occasion d'un anniversaire, puisque c'était les 60 ans du texte du 4 octobre 1958. On parle de la Constitution de la 5e République, c'est la Constitution aujourd'hui qui régit notre système politique. Donc des annonces devaient être faites aujourd'hui par le président Macron. On va aller voir, on va essayer de trouver un petit article pour voir ce qui a été effectivement annoncé, s'il y a des dingueries. Et puis du coup, l'opinion a fait un truc assez intéressant, je trouve. C'est que le journal a demandé à 14 personnalités, des spécialistes de droit, des constitutionnalistes, des politiques, des anciens responsables politiques, eh bien, de nous dire comment ils modifieraient. Je me suis gouré sur un truc. J'ai pas dit 65 ans ? 65 ans de la... Je me suis gouré, 5e République. 1958 avait 65 ans, j'ai peut-être fourché, hein. C'est bien 65 ans, vous avez raison. Et donc 14 personnalités livrent un petit peu leur regard sur comment il faudrait faire évoluer ou pas, d'ailleurs, le texte de la 5e République. Est-ce qu'il faut une 5e République bis ? Est-ce qu'il faut une 6e République ? Voilà, on a des avis que je trouve plutôt intéressants. Ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, vous serez un petit peu éclairés par ça. Puis on va voir ce qui a été annoncé par le président Macron aujourd'hui, puisqu'il devait annoncer des choses. Alors, ça, ça a l'air un petit peu sec comme ça, comme sujet. Le synode de l'Église catholique. À Rome s'ouvre aujourd'hui et pour un mois, un synode, on verra ce que c'est, chargé de dessiner des évolutions visant à mettre l'Église catholique, plus en phase avec la société. Et puis j'ai lu ces dossiers dans Le Monde et dans La Croix, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bon, c'est la une du Monde déjà. Ce processus, ce synode, est la dernière grande occasion pour le pape François, 87 ans, d'imprimer sa marque sur l'institution pour les décennies à venir. Pour la première fois dans l'histoire du catholicisme, des laïcs, hommes et femmes, auront un droit de vote aux côtés des évêques. Pour la première fois dans l'histoire du catholicisme, des laïcs, des non-religieux, des hommes et des femmes, auront un droit de vote aux côtés des évêques. Donc, on verra ça, cet article du Monde. La Croix, on parle aussi, c'est normal, journal chrétien. C'est pas une grande surprise, mais voilà, j'ai compris des choses plutôt intéressantes. Alors, ça me semble essentiel. On en a parlé vendredi dernier dans l'hebdo Étienne, d'ailleurs. J'avais certains de mes invités comme... qui hallucinait, c'est Arnaud de Samer qui hallucinait de ça. Quand avec Thomas Hill, journaliste d'Europe 1, on lui a expliqué que d'après les chiffres dont on disposait en France, la moitié des enfants, notamment des garçons de 12 ans en France, consommaient régulièrement du porno à 12 ans, et qu'en fait on constatait que les jeunes en France découvraient le porno et parfois le porno violent de plus en plus tôt, avec toutes les questions qu'on peut se poser sur la manière dont va se former après le rapport à l'amour, à la sexualité pour ces jeunes qui auront découvert très très tôt ces images parfois violentes. Donc ça me semble un sujet important. Et là, il y a une étude qui est révélée par Le Parisien qui va dans le sens de ce que j'essaie d'évoquer assez souvent ici, sur le fait que ces images pornographiques dégradantes, souvent pour la femme, parfois violentes, eh bien, influencent négativement sur les comportements amoureux et sexuels des gens qui consomment ce contenu trop tôt, quoi. Selon une étude que nous révélons, une femme sur deux a été initiée contre son gré à des pratiques inspirées du X. Hein, je répète cette phrase, une femme sur deux a été initiée contre son gré. Hein. On l'oblige à une forme de violence... à des pratiques inspirées du X, on verra lesquelles, examen d'une loi pour restreindre l'accès à ces vidéos au début de ce mercredi. Moi, c'est un truc, au risque de paraître un peu vieux con, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Voilà. Alors, le problème, c'est que comment on limite l'accès à ces images, comment on encadre Internet, alors ça, c'est extrêmement compliqué. Comme le dit Captain Mabianic, c'est impossible à restreindre. C'est vrai que c'est très, très chaud. Très, très chaud. Voilà. On verra en tout cas. Moi, ça fait longtemps que je me disais ça, que la consommation d'images porno et notamment jeunes pouvait influer négativement sur son rapport à l'amour, à la sexualité et son rapport à l'autre. Et l'étude que je vois dans Le Parisien me confirme ça, en fait. Voilà. Alors justement, comme en écho, ça c'est un titre dans Le Parisien, mais vous avez une page dans La Croix, regardez, qui pose cette question, faut-il lever l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Alors l'anonymat pour limiter le harcèlement, mais aussi l'anonymat pour limiter l'accès justement à des contenus problématiques. Alors là, vous avez deux paroles qui s'opposent, parce que ce qui est intéressant ici, c'est d'opposer les regards, les arguments, hein, de faire dialoguer les intelligences pour essayer de nous faire, nous, une opinion. Et vous avez Pierre Bessac à gauche, qui est un des porte-parole du Parti Pirate, qui dit « mais c'est une connerie de vouloir lever l'anonymat, le pseudonymat pour être précis, sur les réseaux sociaux. » Voilà. Et à l'inverse, vous avez un député Renaissance qui s'appelle Paul Midi, qui est rapporteur général du projet de loi de sécurisation de l'espace numérique, qui dit si, en fait, il faut serrer, tout internaute soit identifiable super facilement, quoi. Alors on verra qui a raison, je ne sais pas, mais on verra ces deux regards opposés sur ce sujet, comme ça vous verrez les différents arguments. Ouais, machin dit 50% contre leur gré, c'est énorme, on va en parler, ça c'est incroyable. Alors Aaron Dill dit, il mélange anonymat et pseudonymat. Dans le titre, oui, parfois un titre ça résume... Un titre, c'est quelques mots, hein, c'est peu de mots, donc parfois le titre, en fait, il résume trop. Alors, ils ne confondent pas pseudonymat et de moins en moins, heureusement, de journalistes et d'hommes politiques qui confondent le pseudonymat et l'anonymat. Ils ne le confondent pas, là, mais c'est juste que dans le titre, ils vont à l'essentiel, quoi. Donc, voilà pour le débat. Alors ça fait quelques jours que je surveille le sujet. Claudine Frêche demande, c'est quoi la différence ? On en parlera tout à l'heure, on est dans le sommaire, je ne peux pas développer. Sinon, le sommaire va durer la durée de la revue de presse. Ça fait quelques jours que je vous surveille des papiers sur cette actu. Le risque de l'essoufflement du soutien à l'Ukraine. Dans certains pays, en Pologne, en Slovaquie, aux États-Unis. Il y a des signes qui commencent à apparaître sur un soutien qui va s'affaiblissant des États ou des opinions publiques ou des deux à l'effort de guerre ukrainien. Voilà. Et j'allais le dire, El Giganto m'enlève dans le chat les mots de la bouche et tu fais bien, Poutine n'attend que ça. Voilà. Alors c'est l'espoir depuis le début de cette guerre de Poutine que les alliés occidentaux, hein, notamment de l'Ukraine, se lassent. Voilà, parce que ça coûte cher, parce que ça dure longtemps, parce que, merci Wanda, parce que les opinions publiques se lassent, en fait. Voilà. Quelqu'un me dit, mais ce t-shirt, ça va pas du tout par contre. Franck, qu'est-ce qu'il a ce t-shirt? C'est un petit t-shirt gris, petit gris chiné, tout simple. Quoi, il est un peu trop... Je me suis un peu ramolli, il est un petit peu trop... Ça va ou pas? C'est un petit t-shirt en V, en fait, tout simple. Qu'est-ce qu'on a... Ça me boudine un peu. J'ai repris le sport, quoi. Ouais. Bon, on s'en fout. Donc ça, c'est une vraie question. Et alors, quand je dis, ça fait quelques jours que je surveille le truc, c'est parce qu'en fait, je voyais cette actu monter, mais je cherchais le bon article, l'article complet est clair là-dessus, je l'ai trouvé, c'est une double page dans la croix là-dessus qui nous explique vachement ça, et c'est vachement, vachement intéressant. Et alors on finira en beauté, si je puis me permettre. Ouais, tu as raison de le rappeler, il y a l'Esquoi qui dit, mais Poutine ne voulait pas prendre Kiev en 3 jours. Si, mais il s'est un petit peu cassé les dents, en fait, contre l'armée et le peuple ukrainien. Comment ça on dit pas vachement? Bien sûr, Mayan, on dit vachement. Ici, on dit vachement. On parle très mal ici, parce qu'on parle simplement, en fait. On oublie les formules toutes faites des journalistes que j'ai pratiquées pendant 25 ans pour arrêter de se cacher derrière la complexité des mots. Et on parle comme on est. C'est comme au McDo. Parce que utiliser les mots les plus compliqués possibles pour décrire des choses qui sont éminemment complexes, ça n'aide pas. Et moi, je me dis qu'en empruntant... des mots dans un champ sémantique plutôt cool, hein, pour dire les choses, ça permet un petit peu de clarifier les choses, quoi. Voilà. Un effort de, pas de simplification, mais un effort de langage pour arrêter de se branler, putain qu'est-ce que je suis vulgaire, avec les mots compliqués, quoi. Donc je dis vachement, en même temps je dis champ sémantique pour me la raconter après, c'est un des mots que j'utilise pour faire genre, quoi. Alors là on va finir en beauté avec, j'ai jamais vu ça, enfin, je crois pas. Autant d'articles, on s'est même pas séduit, en fait, c'est sous le charme d'un film. Le Parisien, totalement tombé amoureux. Libération, totalement tombé amoureux. La Croix, totalement tombé amoureux. D'un film, un film français qui est sorti aujourd'hui, que certains ont peut-être vu aujourd'hui, ce mercredi. Le règne animal de Thomas Caillet. Voilà. Avec notamment Romain Duris et ce jeune acteur qui est Paul Kircher, voilà. Mais alors, tous les journaux vous disent que c'est une dinguerie, que c'est un super beau film, voilà, film de science-fiction français, étonnant, incroyable. Alors, une telle unanimité, ça interpelle un petit peu. Et donc, on lira ces articles, on essaiera de comprendre pourquoi les médias sont aussi séduits par ce film, puis on ira voir. La bande-annonce que je ne suis pas allé voir, donc ce sera une petite surprise pour moi aussi. Quelqu'un l'a vu ou pas? Merci ZF1042 pour le 12e mois d'abonnement, ça va me permettre de me racheter une petite table de mixage. Bien sûr qu'on ira voir le trailer. Ouais. On ira voir la bande-annonce, bien sûr. Voilà. Mais quelqu'un l'a vu ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, les amis? Personne? Putain, pardon. Moi, je me dis, il y a 2000 personnes, il y en a bien qui a vu le film. Pas vu. Oh, mais non, faut pas dire ça, Amid. Il y a Amid Nassan qui dit, j'ai été trop déçu par les films français pour aller le voir. Merci Lulu pour le 16e mois, c'est adorable. Plus personne va au ciné. Ah oui. Pas vu. Non, on bosse, nous. Eh, moi aussi, je bosse. Plus personne va au cinéma. Non plus, pas vu. Personne. Waouh. C'est assez impressionnant. En général, quand je parle d'un film, tout le monde, il y a toujours des gens qui l'ont vu. Il y a Olive Heller qui dit il y a trop de punaises au ciné. Ah, j'y vais ce week-end, me dit Santé, mais pas des pieds. Il y a Flèche Azur qui fait la même blague sur les punaises, trop tard. Trop tard a déjà été faite. Bon, arrêtez avec la blague sur les punaises. Vous faites tous la même blague là, en même temps là. Quoi ? Il y a Pchit Laganette qui me dit je suis en licence cinéma et je n'ai pas entendu parler de ce film. Enfin, je sais pas, les journaux ne parlent que de ce film. Donc on verra ça. Ça m'a assez. Hein. Alors moi, pour le coup, je me suis vraiment dit waouh, j'ai envie d'aller le voir. Alors quand ? Puis il y a deux créateurs que je veux voir aussi. Quand ? Bah demain, question pour un champion et puis stream demain soir. Vendredi, question pour un champion, l'hebdo Étienne le soir. Vous allez me dire samedi ? Samedi, j'ai un stream surprise. Je viens d'être invité pour un espèce d'événement sur la chaîne d'un chouette et gros streamer français en mode co-animation. C'est la première fois qu'on me propose ça. Voilà. J'ai pas bien compris de quoi il s'agissait, mais j'aime bien le streamer. J'aime bien le gars, voilà, que j'ai croisé plusieurs fois. Et donc, on se fait un petit stream, laissez-moi réfléchir, 13h-15h, samedi. Voilà. Pas sur ma chaîne. Non, c'est pas Rayou. C'est un garçon que je connais, que j'ai déjà croisé. Peut-être même qu'il est déjà venu streamer à la maison. Mais en même temps, comme j'ai reçu plein de gens, ça vous aide pas beaucoup. Et que bah, cette fois, ça va être sur sa chaîne. C'est un événement. Un event. Vous êtes plusieurs à dire que ça peut pas être Rayou parce qu'à 15h, il dort. Ouais, voilà. C'est un truc marrant. Voilà. J'ai dit oui parce que j'aimais bien le streamer. J'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. On est un petit peu sur du sport, un petit peu quoi. Voilà. Voilà. Non, c'est pas Jean Castex, c'est un autre streamer. Non. Bonne nuit, Alexandra. Je ne vous dirai pas. J'attends que c'est pas chez moi. Je suis pas l'host de l'événement, donc ça se fait pas. On est d'accord que ça se fait pas, hein? Je ne dis pas. Vous ne me tirerez pas les vers du nez. Je vous rappelle que je n'ai pas de vers dans le nez. Donc on ne peut pas me tirer littéralement des vers du nez. Je n'en ai pas. Hein? Ok. Est-ce qu'on y va ? Vous ne saurez pas. Regardez. Vous voyez des vers là ? Là. Est-ce que vous voyez des vers ? Bon, alors comment ? Vous ne saurez pas. Voilà. Ok ? On y va ? On essaie de comprendre cette histoire de Sofia Chikirou là ? Comment ça, stop les doigts d'honneur ? J'ai pas fait des doigts d'honneur. Ah, si, oui. Ah si, un petit peu. Okay. Oui, pas fait exprès. Ça va, tu t'es cru chez Mémé ou quoi ? Il y a Nemgis qui dit « Envoie la bande-annonce du film, s'il te plaît, avant. » Non. 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 Tu sais, à mon âge, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que moi, j'ai annoncé un plan. Hein, genre, j'ai fait un sommaire. Ça donne un chemin de fer, ça donne un conducteur. Voilà. Et on va partir ensemble d'un point A et on va aller ensemble à un point B. Et je ne vais abandonner personne sur la route. Voilà, parce qu'il faut sauver le soldat Ryan, c'est très important. Donc je vais vous prendre par la main de l'affaire Chikirou, voilà, au cinéma. Voilà. Et on ne va pas commencer par la fin, en passant par le milieu. Non. Voilà. On est sur quelque chose de structuré ici. On est sur quelque chose de construit, voilà, de pensé. Voilà, et je ne vous lâcherai pas. Voilà. On fait ça ? Le chat est plus dissipé le soir. Oui, j'ai remarqué que le soir, ça partait un peu plus en sucette. Et moi aussi, je dis encore plus de conneries le soir. Le matin, je suis plus sur l'actu, quoi. Le soir, je dis n'importe quoi. Alors, l'affaire... Non, pas l'affaire Kirikou. Arrêtez. L'affaire Chikirou, ça n'est pas la même chose. On commence par le Parisien et puis on va aller voir le dossier du Monde qui est encore plus complet là-dessus pour aller un petit peu loin. Un petit peu plus loin. Donc, la France insoumise serait engluée dans l'affaire Chikirou. Non, pas Shakira. Chikirou. Soupçonné d'escroquerie aggravée, la députée de Paris, bras droit, donc celui-ci, de Jean-Luc Mélenchon, est aussi mise en cause pour son attitude brutale au sein du parti. Aucun ne l'avouera publiquement. Je commence à lire l'article de Pierre Morer. Merci beaucoup, Popo Vigno. J'espère que tu vas bien. C'est dingue, effectivement, les 15 mois. Aucun ne l'avouera publiquement, mais plus d'un insoumis va allumer sa télé jeudi 5 octobre, donc c'est demain, à 23h, au programme, un numéro de complément d'enquête sur France 2 consacré à Sonia Chikirou. Non, pas Cherokee, pas Chicorée, pas Shakira. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Donc consacré à Sofia Chikirou, cette très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui dirige la communication de LFI depuis 2017. Dans cet article, dans l'article du Monde, il est expliqué qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou ont été proches, très très proches, à différents moments, enfin bon, bref, qu'ils ont été ensemble pour dire les choses. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc je vais pas en faire des caisses là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'affaire judiciaire. Oui, oui, très, bah, très proche, c'est bon, on va pas vous faire un dessin. C'est de notoriété publique, c'est une info, mais c'est pas ce qui me passionne, moi, personnellement. Sofia Chikirou, après avoir fait l'objet d'un article du Monde, qui relate l'enquête judiciaire, donc l'article du Monde, je vais vous lire dans un instant. Selon Le Monde, donc le Parisien parle du Monde, la députée de Paris sera prochainement entendue, écoutez bien, en vue d'une éventuelle mise en examen pour escroquerie aggravée, ça fait un petit peu désordre, pour des soupçons de surfacturation de prestations à LFI lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Est-ce que Mme Chikirou aurait arnaqué LFI, voilà, en surfacturant des prestats de communication, si je dis pas de bêtises, voilà ce dont elle est soupçonnée. Avec des complicités éventuellement internes ou pas, quoi. Dans plusieurs extraits diffusés sur les réseaux sociaux, l'émission de France Télévisions a quant à elle dévoilé des messages homophobes qu'elle aurait écrits et son attitude toxique au sein de la France insoumise. Ça, c'est autre chose, hein, elle n'est pas poursuivie pour ça, mais elle tiendrait régulièrement des propos homophobes et elle aurait une attitude très dure avec les gens avec qui elle travaille. On parle d'une attitude toxique. On ira voir ses vidéos si vous voulez, puisque manifestement c'est disponible. Le turnover de ses collaborateurs est ainsi mis en cause. Et plusieurs insoumis ont confié aux Parisiens le désarroi de certains de ses collaborateurs qui se rendaient à l'Assemblée nationale la boule au ventre. En privé, le triple candidat à la présidentielle, donc c'est M. Mélenchon, défend bec et ongles sa conseillère et maudit une justice qui le pourchasserait. Sofia, c'est un premier prix de ténacité, dit-il. Depuis ces révélations, les langues insoumises pourtant se délient. Si elles sont confirmées, les révélations du Monde constituent des faits profondément contraires à l'éthique militante insoumise et au projet de société que nous défendons chaque jour en tant que députés. Aux milliers de militants bénévoles sincères, Madame Sofia Chikirou doit des explications. Les pratiques doivent changer. C'est la députée Pascale Martin, LFI, qui dit ça. Il faut dire que ces derniers mois, cette communicante s'est érigée en gardienne du temple LFI face aux frondeurs qui ont osé critiquer Jean-Luc Mélenchon à la fin de l'année 2022. À peu près tout le monde est en guerre avec Chikirou à LFI, à part ceux qui ont fait allégeance, raconte un autre insoumis. Elle est le problème en interne. Elle conflictualise tout et monte la tête de certains députés comme François Ruffin, Clémentine, contre certains députés comme François Ruffin, Clémentine Autain ou Raquel Garrido, hein, qui sont considérés par les Mélenchon et ses proches comme des frondeurs. Voilà. Donc on sent, pour faire, je trouve le truc n'est pas très très clair quand même. En gros, il y a ce que la justice lui reproche. Une surfacturation et d'avoir en fait piqué de la thune à LFI, quoi, en gros, hein. Et puis par ailleurs, il y a la personne qu'elle est qui serait toxique, qui serait violente, qui tiendrait des propos homophobes et qui mettrait une sale ambiance au sein du parti. Bon. Ça, ce sont des accusations de membres de LFI. Donc il y a un volet judiciaire et puis en effet, il y a un volet sur la personne. Alors, le Parisien nous dit que l'émission, donc diffusée demain soir. Comment s'appelle-t-elle ? Complément d'enquête a diffusé des petites vidéos, déjà des extraits. On va aller voir ça. Je vais aller sur Twitter/X, complément d'enquête. Excellente émission du service public de France Télévisions. Vous vous suivez mutuellement, ce qui est déjà une bonne nouvelle. C'est parti. Alors, ok, bah on a la bande-annonce là. On a la bande-annonce de ce reportage. Je lis ces quelques mots, c'est intéressant. Regardez. Ah bah attendez, là on ne le voit plus. Le influente, c'est intéressant, redoutée, intouchable. Comment Sofia Chikirou s'est-elle imposée comme la plus proche conseillère du patron des Insoumis? Sophia Chikirou, la dame de pique de Jean-Luc Mélenchon. On a une bande-annonce.
Elle est inconnue du grand public, elle est pourtant l'insoumise la plus puissante de France. Complément d'enquête sur Sophia Chikirou, la stratège de l'ombre de Jean-Luc Mélenchon.
Juste une petite question, toute simple. Je suis quoi ?
Elle a fait de lui le troisième homme de la présidentielle, mais pourrait-elle un jour causer sa perte ?
Si elle est coupable de ce dont on l'accuse, Jean-Luc Mélenchon est responsable.
Accusé de verrouiller la France insoumise, critiqué en interne, l'experte en communication est aujourd'hui au cœur d'une enquête judiciaire pour escroquerie, soupçonnée d'avoir bénéficié de l'argent de la campagne de Jean-Luc Mélenchon.
La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là, loin, moi, cette porte !
Complément d'enquête présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial, sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Ok, ça c'est
elle
la bande-annonce.
Du grand public.
Alors, est-ce qu'on a des extraits ? Ah oui, on a des extraits. On a des extraits... du reportage, bon bah regardons un petit peu, peut-être qu'on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce complément d'enquête, est-ce que c'est intéressant ou pas.
C'est d'abord une communicante, celle qui a su changer au fil des présidentielles l'image du candidat Mélenchon.
Elle a un don de la communication et, pour employer un mot ancien, de la propagande, qui est tout à fait remarquable.
Depuis la présidentielle de 2017, l'ex-directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon est aussi sous la menace d'une possible mise en examen dans l'affaire des comptes de campagne de LFI.
L'un des soupçons qu'il y a dans ce dossier, c'est d'avoir escroqué en partie l'État français, c'est-à-dire le contribuable, en se faisant rembourser des prestations qui soit n'ont pas existé, soit qu'elles ont été très largement surfacturées.
Si elle est coupable, le sang entre l'accuse. Jean-Luc Mélenchon est responsable. Et personne ne se mettra derrière lui pour une nouvelle campagne présidentielle en 2027.
La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, vous m'avez...
C'est intéressant les propos du monsieur là. C'est... Moi, à un moment, je me dis, mais quel intérêt de ce... Voilà, c'est la politique vue par les personnes. On s'en fout en fait. Mais là, on sent qu'il y a des conséquences politiques derrière cette histoire en fait. Bon, d'abord, est-ce que de l'argent public a été détourné quelque part et puis, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la dynamique, la potentielle dynamique politique de Jean-Luc Mélenchon pour la prochaine présidentielle, par exemple, pourrait être atteinte, limitée, réduite, affaiblie par une éventuelle condamnation de Sophia Chikirou. Donc voilà, on voit que on est au-delà du questionnement sur une seule personne.
Donc c'est un enjeu absolument colossal.
Enquête sur celle qui a fait le succès du leader insoumis et qui pourrait demain causer sa perte.
Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres extraits ? Je crois pas. Si, il y en a pas mal. Ok. Ouais, il y en a des extraits.
En tant que représentant.
Vite, tive sur les. La chef du gouvernement.
Tu regardes si c'est intéressant ou pas. On va pas regarder 15 extraits du truc, hein. Ok. Ok, ok. Donc, on a un premier papier du Parisien qui nous explique un petit peu les choses et on va aller voir une enquête du Monde un peu plus poussée encore pour aller plus loin sur ce sujet. Hop, voilà l'article du Monde en question. Pourquoi la justice enquête sur la députée LFI Sophia Chikirou. Selon les informations du Monde, l'élue et ancienne conseillère en communication devrait être prochainement entendue en vue d'une éventuelle mise en examen pour escroquerie aggravée. La justice lui reproche, à titre principal, vous allez voir, ça va être extrêmement clair, d'avoir facturé par le biais de sa société Mediascope, donc sa société à elle, des prestations avec des marges très supérieure aux autres professionnels du secteur. La facturation dans la fourchette la plus haute du prix du marché du travail de bénévole ou de salarié peu payé, je répète la phrase quand même, la facturation donc chère du travail de bénévole ou de salarié peu payé, longtemps utilisée par les partis de gauche afin de se financer en l'absence de grands donateurs, avait généralement pour objectif de se faire rembourser ses marges par l'État afin de constituer une caisse noire en vue d'une prochaine échéance électorale. Donc c'était des pratiques qui n'étaient pas terribles, mais qui ont existé, notamment ici dans, pour les partis de gauche, dans le passé. Mediascope fait la figure d'exception parce que selon une expertise judiciaire consultée par Le Monde, Sophia Chikirou s'est versée en fait à elle-même la quasi-totalité des bénéfices de la campagne de 2017 en primes et en dividendes et pas versée au parti. Ce qui n'est pas la même chose. Donc il y a un truc d'enrichissement personnel. En 2017, la société Mediascope est généreusement rémunérée durant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, donc on parle de la campagne pour la présidentielle, dont Sophia Chikirou est directrice de communication. Malgré les 1,16 million d'euros, quand même, facturés par Mediascope, des locaux sont mis gracieusement à sa disposition au sein du siège de campagne, donc c'est des dépenses en moins pour sa société. La plupart des coûts de structure de l'entreprise, 33 325 euros, sont également payés par la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ce qui diminue drastiquement les frais à la charge du prestataire. Donc non seulement la société prestataire chope un marché au-delà d'un million, mais en plus pas mal de ces frais sont réglés directement par le parti. Le travail des salariés et stagiaires de Mediascope a été facturé avec des suppléments importants. Or, la plupart étaient payés à des niveaux de salaire inférieurs à leurs compétences. 6 de ces salariés sur 13 étaient payés au SMIC, 3 autres touchant 12,50 euros de l'heure. Ils avaient été convaincus par Sophia Chikirou d'accepter une faible rémunération pour la cause, en raison du faible budget supposé de la campagne, expliquent plusieurs d'entre eux interrogés par Le Monde. Des salariés pas payés ou peu payés, voilà, alors que Sophia Chikirou facturait très très cher ses prestats, semble dire l'enquête, au parti La France Insoumise. Leur travail a été facturé au prix pratiqué par les plus grandes agences de communication, sans coût fixe à payer, puisque vous avez compris que LFI les prenait à sa charge avec des coûts salariaux faibles. Mediascope a donc dégagé une marge nette de 18% sur la campagne de 2017, bien au-dessus de ses concurrents, étudiés par des experts judiciaires qui margeaient, eux, entre 1 et 8%. Selon le rapport comptable, les marges dégagées ont surtout servi à rémunérer Sophia Chikirou. Après la présidentielle et législative, Sophia Chikirou s'est lancée dès la rentrée 2017 dans la création avec deux autres personnes, ça je m'en souviens effectivement, d'une web télé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement, humaniste, progressiste, écologique, féministe, officiellement indépendante de la France Insoumise, qui s'appelait Le Média. Je me rappelle, il y avait des journalistes qui étaient partis sur cette web télé. Le Média qui naît en janvier 2018 après une campagne de financement participatif menée pendant 4 mois par la communicante. Rapidement, le style de management et la vision militante de Sophia Chikirou crispent la rédaction et en fait, ça, ce truc a explosé, quoi. En avril 2018, Le Média annonce à tort, par exemple, que l'évacuation policière de l'université de Tolbiac à Paris a fait un blessé grave. Donc c'était une grossière erreur, hein. Ça ne s'était pas produit du tout. On s'en est très vite rendu compte. Après plusieurs jours de flottement, un communiqué préparé sans que Le Média y reconnaisse directement avoir commis une erreur. Des journalistes de la rédaction demande la publication d'un vrai mea culpa. En politique, on ne s'excuse jamais, leur rétorque Sophia Chikirou avant de déclarer à une salariée que cette bande, je cite, hein, pardon, cette bande de tafioles de merde devrait se mettre son communiqué dans le cul profond, selon un message que Le Monde a pu consulter. Démission, je le lis parce que le Parisien nous dit que régulièrement Sophia Chikirou se rendrait coupable de propos homophobes. Démission, arrêt maladie, premier signe de défiance des journalistes. Dès le printemps, la directrice du Média sent que son maintien au poste est compromis. Le 18 avril, celle qui s'était toujours présentée comme bénévole pour cette web télé envoie au comptable du Média, sans le signaler aux autres cofondateurs, une facture de près de 64 000 euros pour l'organisation de la levée de fonds et du lancement de la web télé. Donc, elle s'est toujours présentée comme bénévole, mais elle envoie une facture de 64 000 euros. Facture qui reste ignorée jusqu'au 18 juin, date à laquelle elle signe elle-même le chèque. Le truc, c'est un roman, hein, dont Le Monde s'est procuré la copie. Donc, manifestement, le truc existe. Au lendemain de sa révocation comme présidente de l'entreprise de presse, la communicante demande le règlement d'une deuxième facture de 67 000 euros. Pour le travail effectué au premier semestre 2018, ce deuxième versement est d'ailleurs bloqué par la banque, inquiète du manque de fonds du Média. Tout simplement, Le Média a priori n'a pas les fonds pour régler ses chèques, quoi. Voilà les infos. Je vous lis pas tout l'article, mais vous avez deux pages à lire, c'est touffu, hein, dans Le Monde et une page dans Le Parisien. Donc voilà les soupçons qui pèsent sur Sophia Chikirou, à la fois donc d'escroquerie aggravée aux dépens de son parti LFI Et puis, quelque part, disait un interlocuteur qu'on a entendu dans l'extrait de complément d'enquête, aux dépens de l'État, puisque les partis politiques reçoivent des financements de l'État en fonction de leurs résultats aux élections, donc avec de l'argent public. Et puis, des comportements personnels, un rapport à l'argent, des propos homophobes, dit Le Parisien, d'un comportement toxique par rapport aux équipes qu'elle gérait. Voilà un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui le dossier Chiquiro. Bon, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est, voilà, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est important que les médias en parlent, révèlent ça? Oui, me dit Naro Snow. C'est méga intéressant, me dit Nat. Pas important, me dit Pofli. Totalement intéressant, me dit Isai. Ok, ouais, vous êtes plutôt en mode c'est important, ok. Dans la mesure où il s'agit d'argent public, ouais. Si elle détourne notre argent, dit à Kit, oui. Voilà. Sarah me dit, j'adore ce genre d'affaires, c'est mon Netflix à moi. Alors moi, encore une fois, au début, j'ai eu un réflexe de, ouais, bon, plus ça avance, moi, je me passionne pour l'actualité politique depuis toujours, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, et plus j'avance, et moins... je m'intéresse aux histoires de personnes, aux ambitions personnelles. Et dans la presse française, il y a encore beaucoup d'articles sur les ambitions de machin 4 ans avant la présidentielle, les alliances. J'en peux plus de ça, en fait, les histoires personnelles. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect un peu plus noble de la politique, de savoir, face aux problèmes qui se posent à nous, en tant que société, en tant que pays, en tant que qu'humanité, bon, quelles sont les réponses que les politiques, les citoyens peuvent apporter à ces problèmes. Ça m'intéresse. Les questions de personnes, plus trop, quoi, voire pas du tout. Là, c'est un truc de personnes, mais bon, comme en fait, ces trucs de personnes peuvent avoir des conséquences personnelles, des conséquences sur LFI, sur un parti qui aspire au travers des élections à exercer le pouvoir un jour, du coup ça a une portée politique. Ça a une portée politique qui n'est pas inintéressante. Voilà, donc ça, je vous ai donné les infos, vous en faites ce que vous voulez. Yoldi, merci pour le 5e mois d'abonnement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand il y aura procès, par exemple. Hein, on va pas en parler tous les jours. Voilà. Voilà, comme dit Necoms, on nous vend du drama de toute façon. Voilà, moi c'est ce que je voudrais éviter, en fait. Vous voyez ? Je vous avoue que moi je lis beaucoup d'articles et je ne vous les propose pas tous. Et là, par exemple, si je n'avais pas été convaincu par ce que j'avais lu, je ne vous aurais pas lu, je ne vous l'aurais pas proposé. Quoi. Voilà. Emmerich dit Chiquiro, ça n'est pas LFI. Voilà. C'est vrai, mais Chiquiro est dans LFI, et ça aussi, c'est vrai. Hein. Alors, ça m'a un peu plus hypé. Et puis on va essayer d'actualiser ces infos. L'Opinion nous a expliqué ce matin que le président Macron devait faire aujourd'hui, ce mercredi, des annonces peut-être importantes sur la constitution de la 5e République, qui est en fait la règle du jeu de notre système politique, c'est important, et peut-être des annonces fortes pour faire évoluer cette constitution, pour la rendre un peu plus à l'écoute, notamment des citoyens. Alors on va voir ce que le président Macron a annoncé, on ira trouver un article, et voilà ce que l'Opinion en disait ce matin. L'Elysée promet donc des annonces, merci Silent Kill pour le Prime, c'est adorable. Des annonces pour répondre au déficit démocratique à l'occasion du discours présidentiel sur les 65 ans du texte de la 5e République. Constitution, Macron attendu sur le référendum. Les autorités de l'État, parmi lesquelles Elisabeth Borne, Gérard Larcher, donc le président du Sénat, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Ah non, pas du tout. Jadot, non. Jadot, tu ne viens pas souvent. Jadot, j'entends ce que tu dis, mais non. Je ne sais pas si Yannick Jadot, mais il y a Jadot dans le chat qui dit « Sam, tu as le même discours que ceux qui disent journaliste est vendu, égal vendu juste parce que certains le sont, c'est dangereux et tu le sais. » Non, non, pas du tout. Moi, je ne tiens pas ce discours sur les journalistes. Et si tu venais ici, tu le saurais, j'en parle tous les jours. Et je ne tiens surtout pas ce discours sur les politiques. Moi, j'ai une très haute idée de la politique et de ceux qui en font. Je pense que la plupart sont des gens honnêtes et convaincus, voilà. Et que comme dans tous les métiers, tous les secteurs, toutes les professions, il y a des nazes, il y a des nuls, il y a des malhonnêtes. Voilà. Il y a des gens pas intéressants, mais voilà, le tous pourri, tous pareils, tous pourris, pas ici, hein, pas ici, pas ici. D'ailleurs, Jadot le dit, c'est justement parce que je viens que je le sais, donc tu le sais, donc tout va bien. Donc le référendum, les autorités de l'État devaient assister ce matin au discours que le président de la République devait prononcer au Conseil constitutionnel pour célébrer les 65 ans de la Constitution de 1958. Des annonces, il risque d'y en avoir. Salut Max. L'entourage d'Emmanuel Macron faisait du teasing hier. Pas question de lever le voile hier sur les annonces, mais une mise en bouche. La Constitution n'est pas figée, le président non plus, nous disaient les proches du chef de l'État. C'est la question référendaire du référendum qui devait être un des points forts de l'allocution. C'est intéressant parce qu'on va aller voir ce qui a été annoncé. Donc du coup, on va voir si l'opinion s'est trompée ou pas. L'opinion, le journal. Comment répondre au déficit démocratique si souvent dénoncé, puisqu'on parle souvent de la 5e comme un régime qui n'a pas su évoluer et qui peut-être était pertinent en 1958 et qui ne le serait plus aujourd'hui. Et comment répondre au déficit démocratique si souvent dénoncé? Quelle martingale trouver pour que les Français retrouvent le chemin de l'isoloir? Vous savez que les Français sont de plus en plus nombreux à s'abstenir au scrutin, et ça, c'est très inquiétant. Ce n'est pas un signe de vitalité démocratique. Les hypothèses de réforme sont connues. Elles gravitent autour du champ de l'article 11 de la Constitution et du référendum d'initiative partagée. Hein, les sujets sur lesquels peuvent porter le référendum et comment les citoyens peuvent lancer un référendum. Sur le premier point, c'est la question de l'élargissement du champ d'application de l'article 11 qui est ouverte, parce qu'à ce jour, on ne peut pas lancer des référendums sur n'importe quel sujet, c'est encadré, donc est-ce qu'il faut l'élargir? Et puis le deuxième point, le RIP, hein, le RIP, le référendum d'initiative partagée, qui a été créé en 2008 lors d'une révision constitutionnelle. C'est vachement intéressant, c'est donner la possibilité aux citoyens, à partir du moment où ils sont assez nombreux, pour qu'une question qu'ils se posent soit tranchée par référendum, sauf que les critères de 2008 sont tellement restrictifs que le truc n'a aucune chance de jamais de se tenir. Donc est-ce qu'il faut le réviser? Le nombre de signataires, toutes les étapes juridiques qu'il faut passer. Outre ces potentielles réformes, rien n'empêche le président de lancer par ailleurs, donc d'annoncer aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé, un référendum sur un sujet précis, hein, voire de poser plusieurs questions aux Français, par exemple sur le statut de la Corse, hein, puisque le président Macron récemment s'est prononcé pour une autonomie peut-être de la Corse, la Nouvelle-Calédonie, l'interruption volontaire de grossesse, est-ce qu'il faut mettre l'IVG dans la Constitution, hein, pour protéger ce droit des femmes? Voilà. Est-ce que le président Macron a fait des annonces là-dessus? On va voir. Tout en envisageant ces évolutions, l'entourage du président n'avait de cesse hier de souligner à quel point la Constitution doit être cohérente et conséquente, et combien il faut veiller à ce que son esprit soit respecté, à la frénésie constitutionnelle, aux humeurs de l'actualité, à l'aventurisme, sont opposés la longévité et la plasticité du texte de 1958. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous l'expliquer clairement. Donc la Constitution, c'est le mode d'emploi, les règles de fonctionnement d'un régime politique. Donc la Constitution de la 5e, c'est les règles qui régissent aujourd'hui la vie politique et démocratique et citoyenne en France. Un texte, il est mis en place ici en 1958, avec une évolution en 1962, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis après, la société évolue, le monde évolue, le pays évolue, et la question est de savoir s'il faut changer, s'il faut faire évoluer la Constitution. Par exemple, est-ce qu'il faut maintenir le 49-3, par exemple? Est-ce qu'il faut que le président continue à nommer le Premier ministre? Est-ce qu'il faut plein de questions de ce type-là, quoi. Est-ce qu'il faut mettre de la proportionnelle aux élections législatives ou pas? Et ceux qui ne sont pas partisans de toilettage, de modification régulière de la Constitution de la 5e, disent c'est une constitution plastique. C'est une constitution dont la plasticité est étonnante. C'est-à-dire c'est une constitution, c'est un texte qui s'est adapté à différentes façons de diriger le pays. Exemple, François Mitterrand, dans l'opposition, était un grand critique de la 5e République. Il dénonçait la personnification du pouvoir. François Mitterrand, c'est un homme qui a eu beaucoup, qui a eu des mots très très durs contre le général de Gaulle, pas le général de Gaulle de la France libre, mais le président de la 5e, en dénonçant cette personnification du pouvoir et un régime qui donnait beaucoup trop de pouvoir à l'exécutif et pas assez au législatif. François Mitterrand, quand il a été élu président, il s'est très bien accoutumé à la 5e République, voilà, à ce côté, certains disent un peu monarchique, de la 5e. Alors, c'est un peu l'argument des gens qui disent que la cinquième, en fait, elle est très plastique et elle permet de gouverner des gens extrêmement différents. Ou alors, si on est un petit peu coquin et négatif, on dit que, ben, une fois arrivé au pouvoir, en fait, les présidents, même critiques vis-à-vis de ce système, le trouvent plutôt bien puisqu'ils se rendent compte que cette constitution leur donne, en tant que président, beaucoup de pouvoir. Hein, le pouvoir. Donc voilà pour résumer un petit peu ce débat. Maintenant, on va aller voir ce qu'a annoncé le président de la République. Et puis après, on ira voir ce que 14 personnalités proposent dans l'opinion, justement, pour faire évoluer, ou pas du tout d'ailleurs, le texte de la 5e. Hein, certains aspirent même à une 6e République, notamment à gauche. Alors, on va taper Macron. Constitution. Et on va voir les annonces d'aujourd'hui. On va essayer de trouver une bonne petite source de qualité. Alors, on a... Ben voilà. On a un article du Monde, par exemple, qui nous dit « Réforme constitutionnelle, Emmanuel Macron pose le cadre et ses limites ». On a un article de Libération qui nous dit « Sur la Constitution, Macron complètement flou ». Voilà. On a un article du Figaro. Ben voilà, on a plein de choses. Alors, on commence par le Monde ? Allez. Alors, le chef de l'État a donc déclaré aujourd'hui, on va actualiser cet article de l'Opinion, vouloir mener à son terme l'élargissement du champ du référendum à des sujets comme l'immigration. Il veut élargir le champ du référendum à des sujets comme l'immigration. Waouh ! Ok, pour moi c'est une surprise, on va voir si je me trompe. Et ouvrir une nouvelle étape de décentralisation. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il dit ? Donc le discours, ouais, ok, bon, ça rappelle un petit peu ce qu'il y avait avant. Je passe le blabla. Hein. Alors, accusé depuis 2017 d'exercer le pouvoir de façon trop verticale, trop monarchique, diraient certains, le président Macron admet qu'il faut permettre aux citoyens d'être sans doute davantage sollicités et mieux associés. Épouse donc l'idée d'élargir les possibilités de recourir au référendum. Aujourd'hui, le Monde le rappelle très bien, l'article 11 de la Constitution limite le sujet de consultation par référendum aux traités internationaux. Souvenez-vous sur l'élargissement de l'Europe, par exemple. Aux réformes institutionnelles, aux réformes économiques, aux réformes sociales ou environnementales. Depuis le printemps, les Républicains, donc la droite, LR, réclament de rendre possible la tenue d'un référendum sur la politique migratoire du pays. À ce jour, ça n'est a priori pas autorisé par l'article 11. Hein. Donc c'est une demande de la droite, c'est une demande appuyée aussi par le Rassemblement National, donc par l'extrême droite. Ok. Voilà. Et je suis un peu surpris parce que je vois que le président Macron, selon Le Monde, eh bien, dit qu'il faudrait peut-être effectivement que les Français puissent se prononcer sur cette question migratoire dans un référendum. Mais, écrit Le Monde, comme s'il voulait refermer une porte après l'avoir entrouverte, Emmanuel Macron pose un cadre. Étendre le champ du référendum ne peut permettre de soustraire aux règles de l'état de droit. Notre constitution comporte aussi des limites. Il y a un raid qui vient d'arriver de la zone aéro, je crois. Excuse-moi, je suis en plein dans un papier, mais je reviens vers toi. La Constitution comporte aussi des limites, des points de transgression, entre autres l'intangibilité du droit d'asile, l'égalité des citoyens devant la loi. Ok. Bon, elle ouvre une porte, mais elle la ferme, quoi, un petit peu. Ouais. Ok. Ouais, c'est un peu là en même temps, ça, encore. Hein. Ouais. 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 On va voir ce que Libération en pense. Fidèle à son en même temps, Emmanuel Macron propose, donc là on peut penser que cette possibilité d'élargir le champ du référendum à la question migratoire est, on va dire, un petit appel du pied en direction de la droite, dont il a besoin des voix à l'Assemblée, et de l'extrême droite, en tout cas de ses électeurs. Et puis, on a manifestement un petit appel du pied en direction de la gauche. Emmanuel Macron accorde par ailleurs une concession à la gauche en promettant de faciliter les référendums d'initiative partagée, dont la réforme dont je vous parlais là, qui fait qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de la mettre en œuvre. Aujourd'hui excessivement contraint, le président le reconnaît, mais elle circonscrit ici encore les possibilités ouvertes à cette expression de la souveraineté populaire, pointant le risque de concurrence des légitimités. Il ouvre une porte et il la referme. Ok. Ah ouais. Ah ouais, il dit ça à cause de la réforme des retraites. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Il pointe le risque de concurrence des légitimités entre démocratie représentative, comprenez le Parlement, et démocratie directe, comprenez le référendum. Il dit par exemple, il n'est pas question qu'un référendum d'initiative partagée puisse défaire ce que le Parlement a décidé un an, deux ans ou trois ans auparavant. Comme par exemple la réforme des retraites. Il dit, la réforme des retraites qui a été adoptée par le Parlement, enfin adoptée par 49-3 quand même, hein, eh bien, elle ne peut pas être défaite par référendum. Alors, est-ce que l'IVG doit être inscrit dans la Constitution? J'ai un autre point là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dès que possible, il est plutôt OK. D'accord. Bon, écoutez, moi j'ai besoin de regards un peu éditorialisés là, d'avis de, notamment de Libération, on va voir. Parce que, bah oui. Alors, sans me souvenir du titre de la Libération, vous voyez, je trouvais ça un petit peu flou. Le monde semble nous dire que le président Macron ouvre des portes mais les referme aussitôt. Mais avant d'aller plus loin sur cette acte de Libération, je vais aller remercier les amis de la Zone Aéro parce que j'ai vu un joli raid qui arrivait. Merci la Zone Aéro pour ton raid, merci beaucoup pour le soutien. Voilà. Hop, on retourne voir l'article, c'est pas là, il est où? Il est là, toc, de Libé. Alors, ah, je suis abonné à l'IB, mais là, j'ai pas rentré mes... Ah, bah, je veux rentrer mes codes, parce que je veux... Excusez-moi, il faut que je rentre mes codes. Je précise que quand ça grince comme ça, ce ne sont pas mes os, ou mes vertèbres, ou c'est ma chaise, en fait. Hein. Voilà, c'est ma chaise. Alors, Libération, ok. Regardez pas, pas mes codes. Okay. Alors, se connecter. Ok. Votre adresse. Donc, Samuel le beau gosse. @BG44. Et le mot de passe, bon, c'est ma taille. Hein. Donc c'est 1m92. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok, je pense qu'on est connecté. Ok. Fermé, c'est bon. Toc. Ok. Pensez à renseigner votre numéro de téléphone dans votre espace client. Bon, on va attendre un petit peu. Alors, Libé a trouvé le président complètement flou sur le sujet. Ok. Est-ce que ça confirme un petit peu le sentiment qu'on avait à l'instant dans le monde? Alors, le président n'a fait qu'esquisser des pistes déjà. Ok. Ouais. Discours bref, propos à minima. Rien qui n'ait déjà été annoncé ou évoqué. Proposition allusive, ouais, c'est pas top, hein. Ok, moi j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il veut changer? La première pierre du chantier sera référendaire. D'une part, autoriser que les Français soient consultés sur d'autres sujets que l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale, je vous le disais. Et puis, faciliter le référendum d'initiative partagée. Ok. Ouais. Ok, ouais, en fait, ça rajoute rien par rapport à l'article du Monde. Ok. Comme le dit Zeratul TWT, quand c'est flou, il y a un loup. Eh ben, je sais quoi, je suis déçu. Voilà. Quand je prends l'article de l'Opinion de ce matin, qui donne la parole à des proches de l'Élysée, qui disent, ouais, attention, vous allez voir ce que Parce que vous allez voir, vous avez quand même des gens à l'Élysée qui ont dit à l'opinion, l'Élysée promet des annonces pour répondre au déficit démocratique. Bon. Des annonces, il risque d'y en avoir. Voilà. Voilà. La Constitution n'est pas figée, le président non plus. Quand on se penche sur le décryptage, notamment du journal Le Monde, des annonces du président Macron aujourd'hui, bon, il n'y a rien de très net, il n'y a rien de très très clair. Voilà. Pourquoi pas, si j'en crois Le Monde, l'immigration qui pourrait devenir un sujet référendaire, mais attention, parce qu'il y a des grands principes auxquels il ne faut pas toucher, qui ressemble un petit peu à un appel du pied à la droite et à l'extrême droite. Sur un petit clin d'œil à la gauche en disant que le référendum d'initiative partagée devrait être facilité, mais comment, on ne sait pas trop. Bon, bon écoutez, c'est pas foufou. Peut-être que demain matin, je trouverai des articles qui me disent l'inverse, qui ont trouvé le président Macron clair et les annonces ambitieuses. Je vous les mettrai de côté, bien sûr, parce que un des trucs que j'adore, c'est de trouver des articles qui ne sont pas d'accord avec moi. Je verrai, mais là, pour l'instant, ce n'est pas topissime. Si on a un petit peu de temps, 22h06, ça va. Je trouve ça plus intéressant, pour le coup, sans insulter le chef de l'État. L'opinion a donné la parole à 14 personnalités, des constitutionnalistes, des juristes, des politiques, des anciens responsables, qui donnent justement leur avis sur ce qu'il faudrait changer dans la Ve République pour que notre système démocratique marche mieux. La parole à Jean-Marc Sauvé, par exemple, qui est un ancien vice-président du Conseil d'État. Il dit, par exemple, lui, qu'il faut répondre aux besoins de démocratie directe. Oui, ça lui mate. Il est indispensable de donner la parole au peuple et de commencer à faire vivre le fameux référendum d'initiative partagée. Ok. Sandrine Rousseau, la députée écologiste, d'abord, il faut en finir avec la personnification, dit-elle. La présidence ne devrait être que garante de nos institutions, donc un rôle modeste, une présidence modeste, voilà, donc pas du tout la cinquième. Le pouvoir reviendrait au Parlement, donc clairement, Madame Rousseau, elle est pour un changement de régime, pour un régime parlementaire et non pas présidentialiste. Comme le nôtre, obliger le gouvernement à gouverner sans imposer oblige par exemple à priver le gouvernement de 49.3 ou encore de l'article 40. Donc on est pour un changement de régime avec plus de pouvoir au Parlement et moins pour l'exécutif. Proposition de Sandrine Rousseau, proposition de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle dit Marine Le Pen ? Davantage de référendums. Par l'extension du domaine du référendum à toute question, par exemple l'immigration, je dis ça, je dis rien. Et à tout objet, par l'initiative populaire à la demande de 500 000 électeurs, par le respect des décisions référendaires. Alors là, par exemple, Marine Le Pen n'est pas du tout d'accord avec le président Macron. Tout texte adopté par référendum ne devrait pouvoir être abrogé ou modifié que par la même voie. Toute décision refusée par le peuple ne saurait être adoptée par la voie parlementaire pendant au moins 10 ans, sauf nouveau référendum. Donc, dans la pensée de Marine Le Pen, la loi dite par le peuple via le référendum doit primer sur la loi qui vient du Parlement. Voilà. Jean-Christophe Cambadélis, qui est un socialiste, écrit « Les solutions aux défis écologiques, aux exigences de l'économie numérique, aux questions sociales, aux questions migratoires et sécuritaires se heurtent tout au manque de légitimité de l'exécutif. » C'est intéressant. Un président élu est toujours légitime puisqu'il a été élu lors d'une élection démocratique. Mais sa politique l'est de moins en moins, tant son assise électorale est étroite. Bah oui, assise électorale étroite. Comme vous avez de moins en moins de participation aux élections, certes, le président est élu démocratiquement, mais il est élu par de moins en moins d'électeurs, puisque vous avez de plus en plus d'abstention. Donc sa politique devient de moins en moins légitime, quoi. Sa légitimité est affaiblie. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, aucun d'eux ne fait exception, sitôt élu, déjà mis à nu, sitôt élu, sitôt critiqué par tous ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il nous faut renforcer l'autorité du Premier ministre, qui ne sera plus nommé par le président, mais élu par l'Assemblée nationale. On revient à un régime un peu plus parlementaire avec M. Cambadélis. Le vote de confiance préalable à sa nomination, donc au Premier ministre, rendrait obligatoire des coalitions, une condition incontournable du déblocage de la France. Ça, c'est marrant, il y a Sarah Molide qui dit ça c'est intéressant, j'allais dire ça c'est intéressant. Qu'est-ce que propose Cambadélis ici? Cambadélis, il dit, Jean-Christophe de son prénom, il dit bon, il faut aller vers un régime un peu plus parlementaire, surtout, il faut que, eh bien, ça a l'air technique, mais en fait c'est intéressant, il faut que ce ne soit plus le président qui nomme le Premier ministre, hein, qui le nomme, qui le dénomme, qui le vire, etc., qui le remplace quand il veut. Non, la légitimité du Premier ministre doit procéder du Parlement, c'est donc le Parlement qui doit se mettre d'accord sur un Premier ministre. Voilà. Et pour qu'ils se mettent d'accord, ils vont devoir former des coalitions, un petit peu comme en Allemagne, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est le côté un peu optimiste, en mode déblocage de la France, parce que pour combattre des listes, ces coalitions qui se formeraient pour soutenir un Premier ministre, eh bien, du coup, ça pourrait débloquer des sujets. Voilà. Ça, c'est le côté optimiste. Alors le côté pessimiste, c'est que ça peut marcher dans certains pays, voilà, où cette tradition de coalition est assez installée dans le cadre d'un régime parlementaire. On pense à l'Allemagne, par exemple. Voilà. Alors en France, quand on voit les débats à l'Assemblée nationale, la capacité à créer des coalitions, ça semble un petit peu plus compliqué, quoi. Voilà. Alors Raquel Garrido, qui est une élue LFI, propose de passer à la 6e République. Dans sa bouche, qu'est-ce que ça veut dire? Supprimer l'article 49.3, par exemple. Voilà. Il est temps d'ôter carrément ses pouvoirs au président, dit-elle, et pourquoi pas de se passer même de président de la République. Et là, on est sur un régime totalement parlementaire, avec un Premier ministre qui tire sa légitimité des élections législatives, un petit peu comme en Grande-Bretagne. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir quand même, c'est qu'en politique, on invente quand même... Si, parfois on invente des choses, mais pas toujours. Là, on est en train d'évoquer des systèmes politiques, par exemple, qui ressemblent à ceux de certains de nos pays voisins. Bruno Retailleau, donc, est un élu LR, président du groupe LR au Sénat. Alors lui, il défend l'actuelle Constitution. Voilà. C'est intéressant aussi. Il y a des gens qui disent, bah non, en fait, ça va, en fait. Gaspier, je ne sais pas si je t'ai remercié. Merci pour le 13e mois. La Constitution donne à ceux qui sont à sa tête un surcroît de légitimité et a démontré sa grande adaptabilité, c'est ce que je vous disais. La force de la 5e réside dans son équilibre entre les pouvoirs de l'exécutif et du législatif, entre les légitimités issues du suffrage direct ou indirect, comme celle du Sénat, par exemple. Hein. Les Français, dit Retailleau, sont attachés à un régime qui fait droit à ces deux passions françaises que sont l'expression et l'incarnation. Aux parlementaires, c'est intéressant, je ne dis pas que je suis d'accord, mais c'est intéressant. Au parlementaire, le rôle d'exprimer la voix du peuple. Au président, celui d'incarner l'unité du pays. Voilà. Alors, c'est une vision un peu idéaliste de la 5e, mais idéalement, la 5e, ça devrait être ça. Je suis assez d'accord. Le quinquennat a déséquilibré ce régime, dit Retailleau, donc la réforme Chirac, pour que le législatif ne procède plus de l'exécutif, dissociant de nouveau l'élection du président de celle des députés, voilà, avec donc le retour au septennat. Voilà. Bon, c'est des débats un peu techniques, bon, qui, moi, me passionnent depuis toujours. Bon, voilà, chacun ses trucs. Mais ce n'est pas inintéressant. Parce que les règles du jeu, donc la Constitution, les règles du jeu politique, elles influent sur la manière de faire de la politique. Voilà. Où on met le curseur entre efficacité et démocratie. Est-ce qu'il faut donner de la stabilité, du pouvoir à l'exécutif? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la démocratie, sur par exemple un scrutin proportionnel intégralement ou pour partie, pour que la représentation nationale à l'Assemblée ressemble le plus fidèlement au vote des électeurs? Ou au contraire, est-ce qu'on donne une prime majoritaire pour que se dégagent des majorités stables, pour donner de la stabilité politique au pays, en se disant que tous les 5 ans, il y a de nouvelles élections, donc les Français peuvent décider de changer cette majorité? Vaste débat, ça c'est à vous de le voir. Allez, je vous parle de choses complètement sexy, totalement fofolle ce soir, puisque maintenant on va parler du synode, voilà, qui a débuté, je crois, aujourd'hui. Prix majoritaire, ESPAF, en fait, c'est une prix majoritaire dans un scrutin. C'est en fait, donc, t'imagines des élections, et donc différents partis qui concourent, qui obtiennent des résultats aux élections parlementaires, par exemple, législatives. Et en fait, le parti qui est arrivé en tête on a une prime, c'est-à-dire qu'en fait on lui donne plus d'élus, de députés par exemple, qu'il ne l'aurait simplement à la proportionnelle. Cette prime majoritaire étant destinée à créer une majorité, voilà, et à assurer la stabilité, puisque quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, eh ben, c'est un peu le bordel. Voilà, c'est un peu ça, prime majoritaire. On parle un petit peu de l'Église catholique, je vais juste me chercher un petit verre d'eau. J'arrive, j'en ai pour 10 secondes. Voilà. Peut-être verre d'eau pipi d'ailleurs, je vais peut-être prendre 2 minutes. Donc, je vais vous parler du synode de l'Église catholique. Alors franchement, hein, vous montrez la une du monde sur le synode de l'Église catholique, les bras vont vous en tomber. Voilà. Mais c'est, en vrai, c'est super intéressant. Et après, on va aller sur la mauvaise influence du porno. Rigolez pas, c'est un vrai sujet. C'est un truc que je trouve extrêmement inquiétant. Voilà. Débat, faut-il lever l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Le risque d'essoufflement des alliés de l'Ukraine, on va accélérer un petit peu. Et puis, le film de l'année, carrément, vos journaux qui sont tombés en amour pour un film français qui s'appelle Le règne animal. J'ai rarement vu des critiques aussi positives. Je vous recale plutôt sur la croix. Ici, je vous mets 2 minutes de pause, histoire de m'hydrater et de me déshydrater. C'est-à-dire d'aller boire de l'eau et de faire pipi, peut-être en même temps. Et je vous retrouve dans 2 minutes. Hop, je vous mets un petit peu de musique et de pub. C'est parti, on se retrouve dans 2-3 minutes. A tout de suite, bande de belles personnes, pour la soirée Étienne où on lit les journaux du matin le soir. On est en fait totalement des punks. A tout de suite. Je vais vous mettre ça. C'est bien la musique douce. Putain, je viens de mettre mes écouteurs dans mon café. Putain, c'est pas possible. Je viens de niquer mes écouteurs, il y en a un qui marche plus. Non, c'est bon. Ah, je suis là. Oh putain, j'ai perdu mon écouteur droit. Oh, fais chier. Oh, je suis grave, putain. Fais chier, je casse tout en ce moment. D'habitude, je suis super soigneux et tout. Oh, fais chier. Bon, j'ai plongé mes écouteurs dans le café. Mon petit tasse de café. Marche plus ? Allô, allô ? Oh, j'ai que mon oreille gauche. Oh. Bon, ces petits écouteurs-là, ils coûtent pas très cher en même temps. Je sais pas si j'en ai d'autres, d'espère. J'ai un sac par là ? Ouais, je vais regarder ça tout à l'heure. Oh là 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 ! Voilà. Ah, il y a un photographe qui me dit « Trempe-le dans l'eau pour enlever le café. » Hein ? Oh, vous êtes méchant, il y a Pierre-Yves qui dit de Sonotone de Papy Sam qui est cassé. Voilà. C'est pas ma soirée, ouais. Enfin, c'est pas mes deux soirées, puisque. Enfin, c'était hier matin, j'ai plongé ma table de mixage dans un bain de coca, ce qui était une mauvaise idée. Et là, je viens de plonger mes écouteurs dans ma tasse de café. Voilà. Bon, bah, ces streams vont finir par me coûter cher. Voilà, bah, allez-y, ma grosse qui crie c'est l'âge, Samuel. Ouais, bien sûr. Allez-y. Bobby Lazor, merci pour le 15e mois d'abonnement, ça me permet de m'acheter un nouveau casque. Va falloir... oh, bulldozer, la violence de vos commentaires, bulldozer, il va falloir une aide à la personne. Mais je sais, il y a Mix qui me dit Sam, je vais te donner le conseil que je donne à mes stagiaires, pas de verre à côté de ton matel. Mais je sais, mais vous avez tellement raison, mais vous savez que sans café, sans hydratation, sans eau, sans coca, j'y arrive pas, quoi. Ouais, désolé, ouais. Tu fais des expériences techniques, fais gaffe, il y a un gars qui s'appelait Claude. Ah, Claude François. Ok, d'accord. Ouais. Il y a Néo qui me dit, je vais ouvrir une maison pour personnes âgées dans l'Essonne, ça tente. Oh, t'as de chier. Voilà. En tout cas, je suis assez fier de moi parce que, regardez, ça n'a l'air de rien. Mais là, vous avez un homme, là. Vous avez un homme qui s'assume, vous avez un homme qui assure et un homme qui s'assume. Vous avez un homme qui n'a pas peur de prendre des risques. Regardez, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? À votre avis, c'est quoi là? Regardez, vous ne voyez pas que c'est dingue ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est? Alors? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est dingue? Voilà, les auréoles, pas d'auréoles. Ronnie Fleur de Paix, exactement. Là, c'est un t-shirt gris chiné. Pour les marques de sueur, il n'y a pas pire, en fait. Il n'y a pas pire. C'est-à-dire que normalement, là, quand tu stream, voilà, là, il n'y a pas de clim dans cette pièce, il fait un petit peu chaud et tout. Et donc, en fait, normalement, c'est les auréoles. Et là, ça n'auréole pas. Regardez, je ne triche pas. Alors que la moindre goutte d'eau, voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bien. Ça veut dire que, parce que, en fait, avec ce genre de t-shirt, dès que tu es un petit peu chaud... Dès que tu es un petit peu dans l'inconfort, ton corps va réagir, va produire de la chaleur. Voilà. Et là, tu vas voir la grosse auréole. Et là, il n'y a pas d'auréole. Et là, voilà. Et ça, c'est là. Et là, c'est le... C'est parce qu'on est bien. On est sur Twitch. Donc il n'y a pas de stress. Il y a point S. Tout va bien. Voilà. Je casse tout. Je flingue ma table de mixage. Je nique mes écouteurs. Et pourtant, on est bien. On est zen. Voilà, total. Ça, c'est Twitch. Voilà. Shurex, merci beaucoup pour le Prime. Bobby Lazor, merci encore. Sachez que quand même, 6 émissions de questions pour un champion enregistrées ce matin, enfin dans la journée, là, vers 18h30, le petit footing pour rentrer, mesdames et messieurs, en termes d'émissions de CO2. Hein, on prend pas la voiture, on prend pas le taxi, on prend rien du tout, on rentre en courant. Comme ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le corps. Voilà. Petite shower à la maison, le petit bisou aux enfants, voilà, quand même pour leur faire coucou, et on va au studio et on fait le petit stream, quoi. Ouais, 6 émissions par jour, c'est le rythme. Voilà. Ça va, hein? Et pas d'auréole. Ouais. Allez, on parle du synode de l'Église catholique. Alors ça a l'air un petit peu sec comme ça, et en fait c'est passionnant, c'est la une du Monde. À Rome s'ouvre aujourd'hui pour un mois. Un synode chargé de dessiner des évolutions visant à mettre l'Église plus en phase avec la société. Ce processus est la dernière grande occasion pour le pape François, 87 ans quand même, d'imprimer sa marque à lui sur l'institution pour les décennies à venir. Pour la première fois dans l'histoire du catholicisme, des laïcs, c'est important, des laïcs, des hommes, des femmes, auront un droit de vote aux côtés des évêques. C'est une petite révolution. L'avenir de l'Église catholique, donc vous l'avez compris, en débat à Rome, des évêques, des laïcs participent à partir de mercredi à un synode sur le fonctionnement de l'institution. Ça va durer un petit moment, quoi. Vous aurez noté, comme certains l'ont noté dans le chat, parce que ce sont des esprits éclairés, que nous sommes passés des auréoles à l'Église catholique. C'est tout. Donc le synode s'ouvre pour 4 semaines aujourd'hui au Vatican. On va parler de gouvernance de l'Église, d'ordination d'hommes mariés, place des femmes et des laïcs ou encore gestion des violences sexuelles commises par des membres du clergé, les sujets risquent de bousculer un petit peu l'institution. Le processus qui va se conclure en 2024 est historique. Attends, on me dit que ça dure un mois, que ça se termine en 2024, ça va pas là. Excusez-moi, moi je suis maniaque. S'ouvre pour 4 semaines. Dans 4 semaines, on est le 4 décembre. Hein. Le 4 novembre, on n'est pas en 2024.
Ok.
Ah, ça va se prolonger, pardon. Ah oui. Cette réunion au sommet va se prolonger par une deuxième dans un an. Ok, d'accord. Pour la première fois, donc, des laïcs, y compris des femmes, sont appelés à discuter, mais aussi à délibérer aux côtés des évêques auxquels l'exercice des synodes, normalement, est réservé. Sur les 365 votants, vous avez 96 laïcs, dont 54 femmes. Par ailleurs, le synode est historique car il résulte d'une consultation sans commune mesure avec ce qui a pu se faire dans le passé. Des fidèles du monde entier se sont réunis dans leur paroisse afin d'envoyer leur contribution sur la façon dont, selon eux, l'Église devrait fonctionner pour s'ancrer mieux dans son temps. Leurs écrits ont ensuite été regroupés par pays et par continent avant d'être envoyés à Rome. Je comprends pas pourquoi il y a des laïcs, dit Tchka. Attention, laïcs, ça ne veut pas dire des gens qui ne sont pas des croyants. Hein. Les religieux, ce sont donc les prêtres, les membres des congrégations religieuses, en l'occurrence ici les évêques. Et les laïcs, en fait, ce sont des gens qui sont membres de l'Église catholique en tant que croyants. Hein, laïcs. Mais ça ne veut pas dire athées ou agnostiques. Hein, ce sont des croyants. Vous avez bien compris, ce sont des hommes et des femmes qui sont chrétiens, qui sont catholiques. Ici, mais qui n'ont pas de responsabilité dans l'Église. Hein, voilà, comme le dit Clamakin, laïc, croyant, mais pas membre du clergé. Ouais, bah ça va. À partir de ces remontées, donc, qui viennent du terrain, le Saint-Siège a produit un document de travail comprenant des questions sur lesquelles les membres du synode sont invités à travailler. Après la deuxième session, donc en 2024, François, le pape François, devrait formuler dans un texte les conclusions qu'il tire de ce processus pour l'Église, parce qu'au final, en fait, c'est le pape François qui va décider. Hein, voilà. Bon, après, on a la Géo-Jacques dans le chat qui nous informe qu'il est sataniste, qu'il attend, Géo-Jacques, la destruction de la Terre. Bon. Merci Jean-Jacques de partager ton analyse avec nous. Les questions retenues sont souvent clivantes, comme celle réclamant par exemple des mesures concrètes pour atteindre les personnes qui se sentent exclues de l'Église en raison de leur affectivité, de leur sexualité, par exemple les divorcés remariés, les personnes LGBTQ+, etc. Ou encore celle appelant sans pour autant mettre sur la table la question de l'ordination des femmes. C'est drôle parce que à l'instant, il y a machin qui dit est-ce qu'ils vont enfin autoriser les prêtresses, donc les femmes prêtres, et le mariage pour les prêtres. Alors justement, j'étais sur ce passage, c'est intéressant, sans pour autant mettre sur la table la question de l'ordination des femmes, donc ça semble pas du tout d'actualité, c'est-à-dire la faculté de devenir prêtre pour les femmes. Voilà, on parle en revanche de l'accès des femmes au diaconat, hein, c'est l'assistant liturgique du prêtre, voilà, qui pourrait être réexaminé. Donc on n'en est pas là, hein, à des femmes prêtres. Sans surprise, les fidèles veulent aussi discuter de la possibilité d'ordonner des hommes mariés. Donc ça, non, toujours pas. Il y a It's Me, Missor, qui dit, comment ça, toujours pas? Ben non, toujours pas. Excusez-moi. Il y a mon amoureuse qui m'écrit. C'est drôle. Non, parce qu'en fait, je me rends compte que mon épouse a mis l'alarme en mode, c'est pas la peine de rentrer. Hein. Tu ne veux plus. Donc je me moque un petit peu d'elle. Tu ne veux plus que je rentre à la maison? Je mets un petit smiley pour qu'on comprenne que c'est une petite blague. Bon. Donc, a priori, les femmes prêtres, c'est pas pour tout de suite. Peut-être une discussion autour de la possibilité d'ordonner des hommes mariés. Voilà, bon, on y va doucement, quoi. Les thématiques rencontrent de très fortes résistances parce que l'Église est comme tout corps. Qu'est-ce que dit mon amoureuse? Il est divisé. Hein. Elle rigole, on a le même humour pourri. Les thématiques rencontrent de très fortes résistances, notamment dans les milieux conservateurs qui jugent qu'il s'agit là d'un questionnement qui n'intéresse qu'une minorité de progressistes, au détriment de la majorité des catholiques qui ont d'autres préoccupations. Le débat est particulièrement virulent aux États-Unis, où vous avez des catholiques assez conservateurs. À l'inverse de l'Allemagne, on attend beaucoup de l'Assemblée du mois d'octobre. Voilà. En fait, alors blague à part, parce qu'on parle de l'alarme à la maison. En fait, la nuit, on met aussi l'alarme sur les portes, sur les fenêtres. C'est un truc que j'ai installé depuis longtemps pour la sécurité de ma famille et de mes enfants. Ce qui est assez compréhensible, notamment dans une ville comme Paris. Et puis après l'affaire qui est arrivée à l'ami Guillon, l'animateur de radio, eh ben, j'ai dit à Hélène, bon, faut vraiment penser à mettre l'alarme la nuit, quoi. Ce qui me semble évident, quoi. Voilà. L'ami Guillon qui viendra très bientôt dans l'hebdo Étienne. J'en ai parlé avec lui, voilà. Parce qu'on s'est croisé ce week-end autour d'une opération pour les Restos du Cœur. Et donc il a un emploi du temps de fou et on s'écrivait ces derniers jours sur des trucs et je lui ai dit est-ce que tu voudrais venir à la maison dans l'hebdo Étienne ou dans la rencontre Étienne pour une émission de 3 heures autour de lui. Il m'a dit franchement 3 heures autour de moi ça n'a aucun intérêt, il est quelqu'un de très humble, de très modeste. Et donc du coup il va venir dans l'hebdo Étienne dans quelques semaines, voilà, c'est cool. Ça va être drôle. Voilà, il y a Silice Liu qui du coup nous pose la question. Sam, est-ce que tu appliques la leçon de Guillon sur l'habillage qu'il faut pour se coucher, puisque Bruno Guillon a raconté à la radio comment en fait les malfaiteurs qui se sont pris à lui et à sa famille, hein, avec des armes braquées sur leur tempe récemment, eh bien en fait l'ont surpris en plein sommeil et c'est là qu'il a raconté que lui il dormait nu et donc c'est le sourire dans ce drame qui lui est arrivé. Savoir qu'en fait, pendant toute cette séquence, eh bien, il était à poil, quoi. Et il a dit, maintenant, je dormirai à moins avec un slip. La Croix se penche aussi sur cette question. Pardon, je passe du coq à l'âne. Église lors de la Réforme. Le synode sur la synodalité, c'est son nom officiel, qui s'ouvre aujourd'hui au Vatican, suscite autant d'espoir que de crainte chez les catholiques. Je lis ce dossier. Ce processus tant voulu par le pape François serait-il en fait un concile Vatican III qui ne dit pas son nom ? 60 ans après l'aggiornamento de l'Église catholique entrepris par Jean XXIII et conduit par Paul VI, certains à Rome en sont persuadés, voilà, que ce synode va permettre une nouvelle évolution de l'Église. Le texte élaboré par un synode est en général une proposition faite au pape, mais n'a pas force de loi. Le pape peut après le reprendre, tout ou partie, mais c'est ça. C'est lui qui le décide, je vous le disais. La crainte chez ceux qui veulent que l'Église évolue, c'est que la montagne accouche d'une souris, ou plutôt que cette assemblée plénière se limite à un éloge du dialogue entre catholiques sur des sujets clivants, comme la morale, comme sur la place des femmes, par exemple, mais qu'il n'y a pas grand-chose de très concret qui en sorte. Au sein de la curie, d'autres sont beaucoup plus sceptiques. Je suis terrorisé par ce synode, dit l'un des employés au sein du palais apostolique. Les tensions sont telles que ça va être terrible, tension au sein de l'Église catholique, comme une guerre dès les premiers jours. Il y a un risque que l'Église en sorte terriblement fragilisée. Les divisions, notamment entre les Allemands, le Monde en parlait, qui veulent pousser des demandes très progressistes, et les conservateurs américains sont déjà très fortes, explique un responsable du Vatican. Vous voyez, c'est pas inintéressant, hein, cette réflexion qui existe au sein de l'Église pour la faire évoluer, pour être plus proche des préoccupations réelles de la société, voilà, mais avec des tensions en interne, avec des gens qui ne veulent pas que ça bouge, en fait. Il y a Pierre-Yves qui nous rappelle que la Curie, c'est le gouvernement du Vatican. Merci beaucoup pour cette précision. Et IMS-16, je t'en remercie pour le Prime. Alors ça, c'est un petit peu un de mes chevaux de bataille. Je vous en parle assez souvent. Pas tellement en raison d'une fascination pour le porno, mais plutôt d'une vraie inquiétude sur les conséquences d'une partie de ces images pornographiques les plus violentes, les plus dégradantes, notamment pour la femme, vis-à-vis d'un public jeune, trop jeune. La mauvaise influence du porno, il y a un article passionnant dans le Parisien de ce matin sur une étude révélée par le journal qui révèle l'influence dans un pays comme la France de l'exposition des jeunes, des trop jeunes, à des images porno violente / dégradante pour la femme, qui vont modifier après, eh bien, la perception ou la construction du sentiment amoureux ou de la présentation de la sexualité chez les gens qui en consomment trop tôt et notamment chez les jeunes hommes. Vous allez comprendre, c'est vraiment passionnant et il y a des chiffres qui font bien flipper. Selon une étude que nous révélons, une femme sur deux en France a été initiée contre son gré, à des pratiques inspirées du X, l'examen d'une loi pour restreindre l'accès à ces vidéos débute aujourd'hui. Le rôle essentiel de l'imaginaire comme booster du désir n'est plus à démontrer. Il y a quelqu'un qui dit à tout âge c'est désastreux le porno. Non, bah, bah, on va. Attendez, il n'y a pas d'image. Voilà, je sais pas, avec Twitch, je me méfie toujours. Non, on va pas jouer les saintes nitouches. L'érotisme, le porno, j'allais dire tout le monde en consomme. En vrai, bon, bah, ça presse dans le domaine du fantasme. Non, la question c'est une certaine forme de porno et le porno à un certain âge. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Le rôle essentiel de l'imaginaire comme booster du désir n'est plus à démontrer. Les psychanalystes comme les sexologues en ont écrit des chapitres. Mais que se passe-t-il quand cet imaginaire, hein, du fantasme, voilà, est alimenté par des vidéos pornographiques véhiculant violence et domination masculine? Quelle est son incidence sur les comportements dans l'intimité? Est-ce que la fiction vient modifier nos comportements amoureux et sexuels? Bizarrement, cela avant n'avait jamais été étudié. S'étonne François Cros, qui est directeur du pôle genre, sexualité et santé sexuelle à l'IFOP, et c'est désormais chose faite. À la veille donc de la présentation à l'Assemblée du projet visant à sécuriser l'espace numérique, entre autres en limitant l'accès des mineurs aux plateformes de streaming X, l'Institut de sondage publie ce mardi une étude, donc c'était hier, sur les impacts négatifs des images banalisant les violences psychologiques et physiques subies par les femmes, qui ont été d'ailleurs dénoncées la semaine dernière, et on en a longuement parlé ici, par le Haut Conseil à l'égalité, dans un rapport. Parmi les tendances les plus effrayantes, le non-respect du consentement chez les amateurs les plus actifs de porno en ligne, et surtout ceux qui y ont été exposés de façon précoce. Conséquence glaçante, une femme sur deux, en France, rapporte avoir été initiée contre leur gré à des pratiques issues de la culture porno. On va dire les termes, on va dire de quoi il s'agit. Un taux qui pourrait encore augmenter à l'avenir, puisque le nombre de jeunes exposés avant l'âge de 15 ans, le nombre de jeunes exposés au porno avant l'âge de 15 ans, a doublé au cours des 10 dernières années, passant de 30% en 2013 à 57% aujourd'hui. Il y a des études qui nous disent aujourd'hui que les gamins de 12 ans en France consomment du porno régulièrement, qu'ils sont une majorité à partir de 12 ans. 12 ans à consommer du porno régulièrement. Globalement, près d'un homme sur quatre admet avoir déjà effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne le souhaitait pas. C'est loin des 50% des femmes interrogées qui assurent que leur consentement n'a pas été respecté lors d'actes sexuels qui sont devenus les plus répandus dans le porn mainstream. Donc, il y a un homme sur quatre qui admet finalement ne pas avoir pris en compte le fait que sa partenaire ne souhaitait pas une pratique sexuelle. Les femmes, elles, disent qu'à 50%, elles y ont été confrontées. Donc, il y a un petit problème au niveau déclaratif, quoi. Par exemple, donc on parle de pratiques sexuelles devenues répandues dans le porn mainstream. Par exemple, la première sodomie a été pour plus de 4 femmes sur 10 un acte qu'elles ont été soit forcées de faire contre leur volonté, 7%, soit qu'elles ont accepté de faire alors qu'elles ne le souhaitaient pas vraiment. Voilà, 36%. Mélissa, 23 ans, fait partie de ces 50% de femmes dont le consentement n'a pas été respecté pendant une relation sexuelle. Elle dit « J'étais alors en terminale, j'avais un petit copain avec qui ça se passait bien. Lors d'un rapport, j'étais d'accord pour lui faire une fellation, mais en plein milieu, il m'a maintenu la tête et m'a obligé à une gorge profonde. Jamais je n'aurais accepté cela. » Donc on est manifestement entre lycéens là. Ouais. Il a obtenu par la force et la surprise quelque chose qui est considéré comme banal dans le porno. Force est de constater que ces résultats confortent le point de vue du professeur Israël Nizan, qui est un gynécologue obstétricien français qui est célèbre, pour qui le message de la pornographie est une éducation au non-consentement. Hein, c'est ce que dit François Cros de l'IFOP. Derrière la question de la réglementation de la consommation de médias à caractère pornographique, il y a donc un enjeu qui est beaucoup plus large. Merci pour le raid, j'arrive Bruno. Merci Bruno. Un enjeu plus large, celui des violences sexuelles au sein du couple et du respect du consentement à certaines pratiques. Vous avez compris l'analyse que font certains de ces chiffres. D'ailleurs, je vais vous en donner d'autres qui sont hallucinants, pas qui sont inquiétants, je dirais. L'exposition, notamment chez les plus jeunes, aux images pornographiques violentes, aux images pornographiques niant la question du consentement, voilà, aux images pornographiques dégradantes pour la femme, eh bien, ces images pornographiques ont une incidence sur le comportement de ceux qui consomment ces contenus, notamment jeunes, voilà, et on arrive du coup à de la violence dans le couple. Bon, je crois que c'est assez clair. Je remercie Bruno Universimu pour ce très gentil raid, merci de ton soutien, merci à toi. Allez voir la chaîne, je pense que les modos vont nous la mettre dans le chat, il s'y passe des choses très intéressantes. IM16, merci beaucoup pour le Prime, Shurek, je ne sais pas si je te remercie, je te remercie. Alors vous allez voir les chiffres là, les résultats de l'enquête dont on parle là. Écoutez, donc le sondage pose la question des personnes d'accord avec les affirmations suivantes. Quand on pose la question, qui est celle-ci, lorsqu'on est en couple, est-ce qu'il est normal d'avoir un rapport ? Est-ce qu'il est normal d'avoir un rapport pour faire plaisir à son conjoint, même quand on n'en a pas envie ? Dans un couple, est-ce qu'il est normal pour faire plaisir à son conjoint d'avoir un rapport, même quand on n'a pas envie ? Vous avez 23% des femmes qui disent « ouais, c'est normal ». Et vous avez 40% des hommes qui disent c'est normal. Et quand on prend les hommes exposés à la pornographie très tôt avant l'âge de 11 ans, eh bien ils sont 57%. Voilà. On va rappeler la base pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que l'autre vous doit du sexe. Ça n'est absolument pas évidemment une obligation. Voilà. Et pourtant, eh bien, dans la société française aujourd'hui, vous avez 23% des femmes qui trouvent ça normal, bon ben, de se forcer, même qu'on n'a pas envie. Voilà. 40% des hommes qui trouvent ça normal de se forcer ou que l'autre se force. Voilà. Et 57% des hommes exposés très tôt à la pornographie qui le pensent. Voilà. Je vous lis sur ce sujet. Il y a Tom qui dit est-ce que c'est normal de ne pas avoir envie ? Mais bien sûr. Bien sûr, en fait, on a le droit d'avoir envie, on a le droit de ne pas avoir envie. On a le droit au sein du couple de ne pas avoir envie. Voilà. Le sexe, l'amour, c'est des choses complexes, qui ne sont pas forcément synonymes. Et en fait, dans un couple, voilà, comme le dit René Fleur de Paix, hein, de façon très claire, le devoir conjugal n'existe pas, quoi. Hein ? Ah bah c'est marrant parce qu'il y a Vanna Nava qui dit qu'en est-il du devoir conjugal ? Alors le devoir conjugal, je vais vous le dire clairement, le devoir conjugal, hein, on se le fout au cul, quoi. Hein. Le devoir conjugal, ça n'existe pas. L'autre, même dans le couple, vous soyez fiancé, compagnon, paxé ou marié, ne se doit pas à vous. Hein. Il n'y a pas de devoir conjugal. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Voilà. Quand vous épousez quelqu'un, vous n'achetez pas une prestation sexuelle, quoi. Voilà. Donc à vous de susciter le désir, à vous de donner envie. À vous de. Voilà, parce que le désir aussi se crée, s'entretient, voilà, et puis l'autre a le droit de ne pas avoir envie, et ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. C'est plus compliqué que ça. C'est marrant que quelqu'un amène comme cette vieille notion de l'âge préhistorique. Je vous lis sur le sujet. Oui, on se la fout au cul, ouais, le devoir conjugal, vous vous foutez au cul, ouais. C'est comme pour que ce soit bien clair, quoi. C'est mignon, il y a Tripadoc qui vient de dire « Je viens de demander à mon amie si un jour elle s'est sentie obligée par compassion, par obligation ou autre, ouf, elle m'a dit non. » Alors, on se la fout au cul seulement s'il y a consentement, bien sûr. J'ai pas précisé, mais bien sûr. Ok, on est d'accord. Je vous lis. Alors là, je vous ai donné un chiffre, mais j'en ai un autre. Autre question qui a été posée aux personnes interrogées. Dans le feu de l'action, on n'est pas obligé de demander l'accord de sa partenaire avant de se lancer dans une nouvelle pratique sexuelle. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? C'est la question qui a été posée aux gens. Dans le feu de l'action, okay, on n'est pas obligé, on ne serait pas obligé de demander l'accord de sa partenaire avant de se lancer dans une nouvelle pratique sexuelle. Les femmes ne sont que 17% à être d'accord, donc le reste à dire bah si, si, faut quand même, faut demander. Les hommes sont 25% à être d'accord avec cette affirmation, en mode bon bah c'est bon, on est parti, on y va, c'est chaud quoi. Et les hommes exposés à la pornographie très tôt, avant l'âge de 11 ans, putain, pardon, 58%, voilà. Donc quand je dis qu'on a les preuves aujourd'hui que l'exposition tôt, trop tôt, au porno, et notamment au porno violent, eh bien, dénature le rapport à l'amour, à la sexualité, ben voilà. Voilà. Consentement. Alors on va résumer, c'est juste un mot, hein. C'est juste un mot. Consentement. Consentement, consentement, communication. Ben, c'est tout, c'est simple. C'est, non seulement c'est la base, c'est la clé de la sexualité, mais de l'amour aussi. Mais de l'amour aussi. Parce que du coup, quand vous créez. Je peux me permettre de faire un peu le vieux machin. Quand vous. Comment ça le. Joe, tu tombes bien en train de parler de cul. Il y a Joe qui arrive. Mon fidèle sidekick. Quand en plus votre sexualité dans le couple hein, est basée sur ces notions-là, en fait, vous, sur un plan amoureux aussi, vous construisez quelque chose qui est plus grand, quoi. Non, pas fidèle destrier, fidèle sidekick. Voilà. Bon, on y reviendra. Peut-être qu'on y reviendra dans l'hebdo Étienne d'ailleurs. Avec, je vous le rappelle, puisqu'on a une très belle line-up. Vendredi soir, regardez comme c'est beau. On aura l'excellente Marie Palot. On aidera l'excellente Manon Mella, donc deux qui reviennent. Marie est déjà venue, elle est revenue. Manon Mella, la journaliste de France Info qui revient également, elle est adorable. Et en plus d'être pertinente, Maxile Dan, pour la première fois le streamer dans l'hebdo Étienne. Et puis Alison Wheeler, l'humoriste dont c'est la première fois sur Twitch. Il y a Alison qui m'a envoyé un message aujourd'hui qui m'a dit « Au fait, ça dure combien de temps ton truc sur la Switch là ?» Combien de temps? Ça, c'est une question que me pose. Quand je vois cette question arriver, je sais que c'est quelqu'un qui connaît pas trop Twitch. Voilà. Et donc la personne se dit bon, ça dure une demi-heure, ça dure une heure, ça dure combien de temps quoi? J'ai pas répondu là. Voilà, donc en général, je fais une petite périphrase en mode alors tu sais, alors, j'ai toujours la même périphrase un peu fumiste. Alors tu sais, Twitch est un média du temps long. Voilà, c'est un média où on prend le temps d'écouter, d'expliquer, de faire des pas de côté, d'échanger, de... Ouais, non, vas-y, combien de temps ça dure? Parce que j'ai des trucs à faire, moi. 3 heures. Récemment, je ne balance pas de nom. J'ai quelqu'un, donc, plutôt de mon milieu des journalistes qui devait venir dans l'hebdo Étienne et qui, 2 jours avant l'émission, me pose cette question. Bon, au fait, ça dure combien de temps ton truc? Donc, alors, tu sais, Twitch est un média du temps long, etc. 3 heures. Et la personne me dit, ah oui, mais non. Ah ben moi, je peux pas, en fait. Ah ben non, parce qu'après, moi, j'avais prévu d'autres trucs et tout. Donc, ça a annulé, quoi. Et j'ai dû remplacer la personne. Voilà. Ça, c'est rigolo. Bah déjà, le sommaire, c'est une heure, donc forcément. Alors, quelle heure il est? Oh, 22h48. Bon, 22h48. Je suis à la bourre. Normalement, moi, le stream du soir, il se termine à 23h parce que moi, je me lève tôt. Demain matin, j'ai question pour un champion. Bon, allez, tant pis. Le sujet est trop important. Tant pis pour ton sommeil. Tant pis pour ta santé. Voilà, tu te dois. Samuel Etienne, tu te dois à l'actualité. Tu te donnes à l'actualité. Voilà. Blague à part, il faut que je vous parle de ça. Ça fait plusieurs jours que je surveille ce sujet qui me paraît très important. J'essaie de vous donner de temps en temps des nouvelles quand même de la guerre en Ukraine, hein, ce conflit qui est à nos portes. Et eh bien, on commence à constater des signes d'essoufflement, du soutien des alliés à l'Ukraine, notamment dans le camp occidental. Voilà. Et ça, c'est le rêve d'un monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine. Kiminou 33, merci pour le sixième mois. Tension avec la Pologne. Lassitude en Slovaquie. Report d'un accord au Sénat américain sur une nouvelle aide à Kiev. Alors que la guerre en Ukraine s'installe dans la durée, des fissures apparaissent dans le camp des soutiens. Les dirigeants européens et américains assurent que leur aide ne faiblira pas. Hein. À Kiev, on s'inquiète pourtant d'une possible érosion du soutien des Occidentaux au moment où les forces ukrainiennes peinent à obtenir, vous le savez peut-être, des résultats sur le terrain. Alliés de l'Ukraine, le risque de l'essoufflement. L'article est bien fait. Ça fait plusieurs jours que je surveille cette actualité. J'attendais le bon article. Vous avez deux pages dans La Croix aujourd'hui qui sont vraiment très bien faites. C'est le pari de la Russie de Vladimir Poutine. À court ou moyen terme, les Occidentaux finiront par lâcher les Ukrainiens engagés dans cette interminable guerre d'usure. L'ancien du KGB ne peut concevoir que des démocraties fragilisées par l'inflation, engagées dans une série d'élections importantes, maintiennent leur mobilisation en faveur d'un pays, l'Ukraine, qui n'est ni membre de l'OTAN, ni membre de l'Union européenne. Donc ça, c'est le rêve de Poutine, que ce soutien, sans lequel l'Ukraine ne pourrait pas tenir face à la Russie, eh bien, s'affaiblisse, voire disparaisse. Et effectivement, vous avez des lézardes qui surgissent ici et là au sein du bloc des alliés de l'Ukraine. D'abord, les responsables polonais qui ont surpris récemment en annonçant vouloir mettre fin aux dons de matériel militaire à l'Ukraine, annonce le 20 septembre. Alors, vous avez un professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'Europe centrale, qui dit « Attention, il ne faut pas prendre cette déclaration de la Pologne au pied de la lettre. On est en pleine campagne des législatives. » Et le PiS, c'est le nom de ce parti au pouvoir en Pologne, s'appelle le PiS. Voilà. Ça ne s'invente pas, PIS. Le PiS, qui s'inquiète de voir une partie de son électorat séduit par le discours anti-ukrainien de l'extrême droite polonaise, a essayé donc de muscler son discours vis-à-vis de son voisin. Je vous interdis de vous moquer du nom de ce parti polonais. Donc, ça lâche un peu en Pologne, également en Slovaquie. Jouant sur une inflation à près de 10%, la peur des migrants et la lassitude d'une partie de la population par rapport à l'Ukraine, le parti de Robert Fico est arrivé en tête des élections législatives dimanche, 23% des suffrages. La Slovaquie qui pourrait rejoindre la Hongrie, qui faisait cavalier seul en Europe en votant régulièrement contre des mesures d'aide à l'Ukraine. Du coup, on se dit que jusqu'aux prochaines élections européennes de juin 2024, les gouvernements européens vont observer avec beaucoup d'attention l'évolution de l'attitude des Européens, le sentiment des opinions publiques vis-à-vis de l'Ukraine. Publié en septembre, par exemple, le dernier baromètre qui montre le soutien des populations européennes aux Ukrainiens affiche toujours des scores très élevés. 65% de soutien à l'Ukraine, 62% en France. 65% se disent favorables à un soutien économique et financier. 57% estiment que l'Union européenne devrait soutenir l'achat et la livraison d'équipements militaires ainsi que l'offre de formation militaire à l'Ukraine. 77% disent accepter d'accueillir les personnes fuyant la guerre. Ce sont des chiffres européens. En France, ils sont un petit peu plus faibles. Des chiffres qui sont forts, mais qui traduisent quand même une baisse, un début de baisse de ce soutien des populations européennes par rapport au début du conflit. Et puis, c'est pas tout, et vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité. La dernière annonce venue des États-Unis a également jeté un froid chez les alliés. La Chambre des représentants a trouvé fin septembre un compromis qui évite le fameux shutdown, la paralysie de l'administration américaine en raison du manque de crédit. Mais la loi de finances qui a été votée in extremis par les élus a écarté 24 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour l'armée ukrainienne. Les démocrates espèrent quand même faire voter cette aide par un projet dédié, mais il y a un monde où les élus trumpistes puissent bloquer en fait ces nouveaux fonds. Or, une suspension de l'aide militaire américaine aurait des effets dévastateurs sur l'allié ukrainien. D'ailleurs, c'est La Croix. Ouais, La Croix explique que les États-Unis à eux seuls ont fourni plus de la moitié du matériel utilisé aujourd'hui sur le front ukrainien pour repousser l'invasion. Alors, tout ça, ça fait les affaires de qui ? De Vladimir Poutine, de la Russie, qui table sur un essoufflement, voire une paralysie du soutien à Kiev durant la campagne électorale américaine, avec un Donald Trump qui dit vouloir mettre fin au conflit en une journée. Il est dans l'intérêt des Américains, démocrates ou républicains de soutenir l'Ukraine. Tempère le général Michel Yakovlev, qui est un ancien vice-chef d'état-major du commandant suprême de l'OTAN, et qui dit quelque chose de très intéressant pour conclure ce dossier. Vous avez compris le problème, affaiblissement du soutien occidental à l'Ukraine, y compris aux États-Unis, Voilà. Mais ce militaire dit à propos des Américains, ils dépensent 5% du budget de leur défense pour aider les Ukrainiens à détruire en profondeur l'appareil militaire russe, ce qui est très rentable. À l'inverse, un abandon de leurs alliés conforterait les Chinois dans leur visée sur Taïwan. Intéressant. Intéressant. Là, c'est marrant parce qu'il y a War Warner qui a écrit « Il faut arrêter de raconter des salades, la guerre profite aux États-Unis et c'est tout. » Eh ben, ce général nous dit qu'effectivement, les Américains ont peut-être un intérêt effectivement, à ce soutien à la guerre en Ukraine pour déstabiliser, pour affaiblir l'armée russe et pour envoyer un message aussi aux Chinois pour qu'ils ne s'en prennent pas à Taïwan. C'est intéressant, hein ? C'est intéressant. Rhapsody in Blue, c'est adorable ce message. Rhapsody in Blue qui écrit « Je ne peux être là que quelques minutes, mais je fête quand même un mois supplémentaire. » C'est trop mignon. Merci. Ça tombe bien, je suis en train de niquer tout mon matériel. Joe, je sais pas si Joe est toujours là, mais Joe, j'ai flingué une piste de ma table de mixage en la noyant de coca. Je crois qu'il est parti, Joe. Et je viens de flinguer mes écouteurs en les trempant dans du café. Tout ça n'a aucun sens. Pour finir, voilà, on va se pencher sur tous ces articles dithyrambiques, ces articles qui disent que eh bien, c'est un film formidable. Voilà, c'est assez étonnant. Le Parisien dit que c'est le film de l'année. Libération consacre 3 pleines pages à ce film. La Croix aussi, dans ses pages culture, a adoré ce film. On parle du film qui s'appelle Le Règne Animal, de Thomas Acquayet. C'est un film français, en salle aujourd'hui, qui est une merveille d'émotion. En fait, vos journaux n'ont pas assez de mots pour dire que ce film, c'est un banger. Alors on va avoir de quoi parler de ce film et puis on va aller voir ensemble la bande-annonce, le trailer que moi je n'ai pas vu. Le Règne Animal, c'est le deuxième film de Thomas Acquayet après Les Combattants. Le long métrage en salle ce mercredi met en scène François qui déménage avec son fils Émile, 16 ans, dans le sud où sa femme, Lana, est transférée dans un centre de soins. Comme d'autres humains, elle est atteinte de mutations, on est sur de la science-fiction, qui la transforme en créature animale, mais l'ambulance qui transportait Lana et d'autres malades plonge dans une rivière et ces créatures, ces humains en train de muter quelque part, et les créatures s'échappent dans la forêt, François part alors à la recherche de son épouse. Déchirant d'humanité, sans oublier d'être drôle, Le Règne Animal, d'ores et déjà l'un des meilleurs films de l'année, nous interroge sur la frontière entre l'homme et l'animal, donc c'est un film qui nous fait réfléchir, sur notre rapport au monde, sur notre rapport aux autres, sur notre rapport aux autres espèces. Dans ce qu'il qualifie d'utopie, Thomas Acquayet a imaginé des créatures impressionnantes de surréalisme, manifestement c'est assez réussi. La mutation permettait de nombreuses métaphores, explique-t-il, à travers elle on pouvait notamment parler de vivre ensemble. Salut Sarah, bonne soirée. De la façon dont on accueille la différence. Et les mutations du règne animal sont lentes, progressives. L'objectif était de susciter de l'empathie, dit le cinéaste, car le spectateur ne sait plus à quel moment ce sont des animaux et des humains. Alors, il y a toute une partie sur l'aspect technique. Je vous fais court, mais voilà, en termes d'inventivité, de moyens mis en scène pour faire vivre ces créatures mi-humaines, mi-animales, le résultat semble intéressant. On va aller le vérifier tout de suite, parce qu'on va aller voir le trailer. Vous avez 3 pages dans Libération et vous avez aussi La Croix qui a totalement fondu pour ce film. Raffoul Faux, merci beaucoup pour ce soutien. Voilà, on va voir la bande-annonce. Après la bande-annonce, ne nous dis pas si le film est réussi, bien sûr. Moi j'aurais adoré que quelqu'un allez un petit coup de YouTube ait vu ce film, mais tout à l'heure j'ai posé la question, personne ne l'avait vu. Alors, Le Règne Animal. Je vous propose de regarder la bande-annonce en VO, c'est-à-dire en français, puisque c'est un film français. Ok. On y va ? Vous êtes prêts ?
T'as vu le retard qu'on a déjà ?
Genre c'est ma faute.
Attends, tu te fous de moi ? Attends ! Émile ! Oh ! Arrête ton circuit.
C'est quoi ton problème?
J'ai pas envie.
C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
C'est ta mère, Emile.
Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Faut me faire confiance. On va la retrouver.
Lala!
Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
T'as peur des créatures?
Faut apprendre à vivre ensemble.
Faut pas avoir peur.
Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?
Alors, est-ce qu'on a une autre bande-annonce? C'est toujours la même. Ok. Pour moi, il y a comme un hiatus entre ces articles qui nous disent que c'est genre le film de l'année, voilà, le Parisien, Libé qui a craqué, qui consacre 3 pages à ce film, La Croix qui a adoré, et cette bande-annonce qui est intrigante en fait, tu vois, il y a machin qui dit oula, ça donne pas trop envie, et je suis d'accord. Et en fait, moi, mon sentiment, c'est que j'ai lu vraiment plein de papiers qui disent que le film est subtil, intelligent, qui prend, qui l'emmène, qu'il est à la fois sympa à regarder et en même temps nous fait réfléchir. Et moi, je pense que la bande-annonce rend pas du tout la complexité et l'ambition de ce film. Voilà. Donc, mon sentiment, c'est ne vous fiez pas à la bande-annonce. Et ce film, il a l'air vraiment assez étonnant. Moi, j'aurais adoré que quelqu'un l'ait vu, en fait, dans le chat, voilà, en ce mercredi, quoi. Narocho, quand tu dis « j'ai pas trouvé ouf », est-ce que tu parles de la BA ou est-ce que tu l'as vu? Voilà. Alors, certains, ouais. Certains ont trouvé la BA intéressante. Moi, je pense que la BA n'est pas à la hauteur du film. C'est mon sentiment. Il faudrait que je voie le film. Mais tenez, je vais vous... tant pis pour le sommeil. Je vais vous montrer l'article de La Croix, par exemple. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que La Croix est totalement tombé amoureux de ce film. C'est dingue. Merci pour le prime. Rafoulfou, je ne sais plus si je t'ai remercié. Je ne sais plus. Le réalisateur des combattants signe son deuxième film original et ambitieux qui marie avec justesse le drame intime et le fantastique. Quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est plus du fantastique que de la SF. Une réflexion sur les mutations du monde contemporain et notre rapport à l'environnement. Oui, bah j'y pensais aussi. Il y a Camille qui dit, ça me fait penser un peu à Sweet Tooth que je suis en train de regarder la saison 2 là, peut-être. Présenté à Cannes en ouverture d'Un Certain Regard, le deuxième long métrage de Thomas Caillet avait bluffé les festivaliers par son originalité, par son ambition esthétique. Un univers singulier mêlant réalisme et fantastique qui refuse obstinément de se voir accoler une étiquette. À la croisée du cinéma d'auteur et de genre, Le règne animal est un objet hybride rare dans le cinéma français. Un film qui lorgnerait volontiers vers Spielberg, vers Bong Joon-ho ou Miyazaki, tout en assumant sa fibre intimiste et son ambition intellectuelle. C'est étonnant, hein ? Non pas un film de genre, dit le cinéaste, mais un film de genre au pluriel, teen movie, drame intimiste, spectaculaire, comédie, tout en donnant matière à notre réflexion sur notre déni face au changement climatique, sur la frontière entre l'homme et le reste du vivant, mais aussi sur l'acceptation de la différence et ce qu'on transmet à un enfant. Waouh ! L'histoire est ancrée dans un quotidien bouleversé à la manière de l'épidémie de Covid par une maladie qui entraîne donc des mutations chez certains humains, les transformant progressivement, vous l'avez compris je pense, en animaux. Confronté depuis 2 ans à cet étrange phénomène, le monde décrit par ce film a repris le cours de la vie ordinaire. La science jusque-là impuissante a préféré enfermer ces créatures dont on parle dans des centres en accueillant de trouver le traitement miracle. La Croix écrit « Du premier au dernier plan de ce film, elle en est le cœur battant et le moteur émotionnel. Elle nous permet de traverser avec eux les épreuves, d'accepter l'improbable et nous bouleverse dans ces moments de tendre complicité, comme lors d'une scène magnifique dont parlent plusieurs articles, où à la recherche de Lana, donc la maman, ils chantent à tue-tête, le père et le fils, sa chanson préférée. Jamais le spectaculaire et les effets numériques parfaitement maîtrisés ne prennent le dessus et n'entament le réalisme de l'histoire, ni sa dimension profondément humaine et joyeuse. C'est dans cet équilibre très travaillé que le réalisateur apporte sa singularité et sa capacité à interroger les enjeux de notre monde contemporain à travers une histoire universelle du grand art. C'est beau, non ? C'est beau. Alors, certains sont un peu sceptiques. Certains sont un peu sceptiques. Je vois par exemple Empire, qui c'est rare qu'un film français de SF ou fantastique soit aussi encensé. Je me méfie, ça sent la douille. Voilà. Il y a Mathieu 26 qui dit bah ils veulent vendre le film quoi. C'est-à-dire, il c'est qui ? Attention, c'est le moment où vous savez, je me fâche. Les habitués vont me voir venir. Il c'est qui ? Les journalistes ? Vous pensez que les journalistes veulent vous vendre le film ? Pourquoi ? C'est une question intéressante. Qui sont ils ? Est-ce que vous pensez que les journalistes veulent vous vendre le film ? Et si oui, pourquoi ? Ah, assez d'art. Payé peut-être. Ah, ça passait. Je l'attendais un petit peu. Hein ? Est-ce que vous pensez que en France, est-ce que vous pensez que les journalistes peuvent être payés, les journalistes des journaux que je vous lis, hein, par des producteurs pour dire du bien d'un film. Est-ce que vous pensez que ça existe ? Il y a Killer 2000, magnifique pseudo, qui dit c'est le film du copain de l'actionnaire XY. C'est intéressant ça. Hein ? Les articles sponsorisés, c'est un truc commun chez Shoshiro. Je vous lis, puis après je vous réponds. C'est le moment où je vais gueuler, là. Voilà. Ben oui, dit Mix. Ça existe, les articles sponsorisés, non ? Hein ? C'est le cas dans les jeux vidéo, pourquoi pas le cinéma ? Je vous lis. Étienne, tu dis que ça n'existe pas ? Je vais vous répondre, Comenix, vous allez voir. Voilà. Ah bah ils ont été invités et tralala, donc forcément ils vont dire du bien du film. Ok, attention, le vengeur masqué Samuel Etienne qui défend les journalistes, en tout cas les journalistes qui font bien leur travail, va encore gueuler dans le micro à 23h07. Dans les journaux que je vous lis, les articles que moi je... Les journaux que je lis parce que j'ai plaisir à les lire, parce que ce sont des journaux de qualité. Je cite donc les journaux que je lis le matin, Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Il faut que je me mette à lire L'Équipe. Dans ces journaux-là, je ne vous parle pas du reste, hein, peut-être que vous avez, vous lisez des trucs, vous lisez peut-être d'autres journaux qui ne sont pas des journaux de qualité, je m'en bats les couilles. Quand je commence à être vulgaire, c'est que je vais crier. Dans ces journaux-là, vous ne trouverez jamais, un article sur un film qui dira du bien de ce film parce que le journaliste ou le journal a été payé. Je répète ma phrase. Dans ces journaux que je vous lis, vous ne lirez jamais un article qui dit du bien d'un film parce que le journaliste ou le journal a été payé pour le faire. Tout simplement parce que ça n'est pas dans notre culture du journalisme en France, du journalisme de qualité. Ça n'existe pas. Si un jour, un journaliste acceptait de l'argent pour dire du bien d'un film, dans un de ces journaux de qualité. Si un jour, un journal de qualité comme celui-ci, La Croix ici, Libération, peu importe le monde, acceptait de l'argent pour dire du bien d'un film, il serait très rapidement dénoncé par les confrères, par les autres, qui adoreraient, d'ailleurs il y a même des médias qui ne font que ça, à longueur de journée, qui passent leur temps à essayer de trouver, non pas ce qui marche pas dans le monde, mais de savoir si les confrères font bien leur travail ou pas. C'est une passion comme une autre. Voilà. Quand il y a un truc défaillant chez nous, les premiers à balancer, c'est nous, en fait. C'est les autres journalistes. Ouais. Certains me disent, ah, ça existe les articles sponsorisés. Ça existe. C'est même marqué dessus. C'est une obligation légale. C'est-à-dire que quand vous avez un article qui est payé par une marque, par une entreprise, ça s'appelle non pas un article, ça s'appelle du public reportage ou un communiqué. Et il y a une obligation légale de l'écrire en haut de l'article, en bas de l'article, voilà, pour signifier au lecteur que ce n'est pas un article, que c'est un communiqué. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Vous y croyez pas. En fait, à un moment, ça fait 3 ans que je vous explique ça, qu'il y a les fantasmes sur le travail des journalistes, et puis il y a la réalité. Je ne dis pas que les journalistes travaillent bien. Je ne dis pas qu'ils font des bons papiers. Je ne dis pas que leurs critiques ciné sont justes et intelligentes. Je dis juste que la quasi-totalité des journalistes sont honnêtes, qu'ils ne sont pas influencés par les pouvoirs politiques, par les pouvoirs économiques, qui n'acceptent pas les pressions et qui n'acceptent pas l'argent. Et quand vous avez des gens qui sortent de ce cadre, ils sont dénoncés par les journalistes. Voilà. C'est comme ça que marche la presse en France, la presse de qualité. Voilà. Après, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, parce que ça fait plaisir en fait de penser que tout ça est faussé, qu'il y a du complot, qu'on vous cache la réalité, que tout est en fait caché et... Non, en fait, moi je vous parle de la connaissance que j'ai de ce milieu depuis 30 ans en fait. Alors évidemment, il y a des brebis galeuses. Récemment, je vous ai beaucoup parlé de ce journaliste de BFM qui a été viré de BFM et qui est poursuivi actuellement par la justice pour avoir accepté de l'argent venant de puissances étrangères et de sociétés. En tout cas, il est accusé d'eux. Il y a un procès qui va peut-être arriver un jour, à supposer qu'on trouve des preuves matérielles. Voilà. Donc, ce journaliste a été dénoncé par d'autres journalistes, par une enquête de journalistes, notamment français de Radio France. Voilà. Et ça, c'est affreux. C'est vraiment tellement à rebours de ce que vit cette profession que ça a été dénoncé par les journalistes. Donc, ça existe à la marge. Comme dans tout métier, il y a des escrocs. Comme dans tout métier, il y a des bandits. Voilà. C'est mignon parce qu'il y a Silly Slou qui me donnait cet exemple à l'instant pour me dire que j'avais tort. Voilà. En 30 ans de journalisme, un cas comme ça, j'en ai connu un. Voilà. Je ne vais pas citer le nom de ce journaliste pour ne pas l'enfoncer encore plus, mais il a fait énormément de mal à notre métier parce que vous êtes extrêmement nombreux à penser qu'en fait que c'est monnaie commune, que c'est habituel, que c'est comme ça en fait. Qu'on passe notre temps à accepter de l'argent, des pressions pour dire du bien, d'un politique, d'un film. Non. Non. Mais non. 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 Juste pas en fait. En tout cas, pas dans les journaux que je lis. C'est pour ça que je les lis. Après, vous me croyez pas. À un moment, voilà, c'est ma conviction, c'est mon constat, c'est ce que je vis depuis 30 ans. Voilà. Ils sont pas tous bons, et je m'inclus dedans. Les journalistes, ils sont pas toujours très malins. Ils écrivent pas forcément très très bien. Ils peuvent se tromper dans leurs analyses. Ils peuvent faire des erreurs factuelles. Moi, je me gourre régulièrement sur les chiffres, par exemple. Je suis pas assez rigoureux, pas assez attentif. Mais ils sont honnêtes. Alors, voilà. Libre à vous d'imaginer que la vérité vous est cachée, que derrière il y a des complots qui font que chaque article que vous lisez en fait est contrôlé par je ne sais pas qui, voilà, pour influencer sur votre pensée. C'est faux. Voilà. Alors libre à vous de vous informer auprès de tel ou tel compte sur X, Twitter, Insta, TikTok, Facebook ou Telegram ou que sais-je, dont vous ne savez pas réellement qui sont les gens derrière. Libre à vous de le faire, mais moi je préfère lire un article qui est signé, voilà, par un journaliste, par une journaliste. S'il me raconte de la merde, voilà, c'est écrit, Céline Roudin. Voilà, je sais, je saurais aller la voir, voilà, en tant que lecteur, voilà, pour éventuellement la critiquer ou la poursuivre en justice si elle dit de la merde. Voilà, son nom est là, le journal s'appelle La Croix, il a une adresse, voilà, il a pignon sur rue. Et si à un moment, ce journal ou cette journaliste ne travaille pas, eh bien, bien. Voir vous en fume, ça va se voir, et vous allez dénoncer, et ce sera su. Voilà, c'est le système. Voilà, je suis lourd avec ça, mais c'est ça. Alors je ne dis pas que nous faisons bien notre métier. Je suis chiant, les habitués doivent ne plus en pouvoir, parce que c'est un discours que je tiens régulièrement, parce que j'essaie de défendre un peu mon métier. Je ne dis pas que les journalistes font bien leur métier, qu'ils sont rigoureux comme ils devraient l'être, qu'ils arrivent à être objectifs comme ils devraient l'être, à mettre leurs idées de côté. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'ils font honnêtement leur métier en essayant de vous informer de façon la plus juste possible, avec leur filtre interne d'ailleurs, intérieur, conscient, inconscient. Voilà. Mais arrêtez d'imaginer que ce qu'on peut lire, par exemple une critique de cinéma comme ça, elle est bonne parce que le producteur a payé pour l'article. Ça n'existe pas. En France, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le film est bien. Hein. Ça ne veut pas que le film... Peut-être que tous ces journalistes se trompent. Peut-être qu'en fait, les mecs se tirent la nouille parce que le film est un peu un télo et ils ont kiffé et que c'est un espèce de microcosme parisien qui dit « Waouh, le cinéma français, c'est formidable !» Ça, peut-être, vous avez le droit de le dire. Peut-être qu'ils sont totalement à côté de la plaque dans leur... Oui, vous comprenez ? Ça, oui, bien sûr. C'est une critique, c'est un regard subjectif. Peut-être qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Peut-être que ce film est une bouse, en fait. Mais ne pensez pas que ces mêmes journalistes ont accepté de l'argent pour écrire ça, quoi. Voilà. Parce que sinon, après, c'est sans fin, ça n'a aucun sens. Quand des journalistes descendent d'un film, ce qui arrive très souvent aussi, alors c'est quoi alors, qu'est-ce qui se passe, comment vous, quand, c'est les concurrents que les autres studios qu'on paye. Enfin, voilà. Bon, je suis chiant avec ça, mais c'est juste ma conviction. Après, peut-être que moi aussi, je suis aveuglé et que je suis débile et que je suis un demeuré et qu'en 30 ans, ben, j'ai pas ouvert les yeux et les oreilles et que j'ai pas vu autour de moi qu'en fait, tout le monde était corrompu et que c'est magouille et compagnie. Je l'ai pas vu. Je l'aurais vu, je vous le dirais. Mais je l'ai pas vu. Je vais pas l'inventer. Voilà. Non, désolé, je suis journaliste et c'est pas du corporatisme. C'est juste que... Je trouve que le regard des Français, il est, c'est pas qu'il est sévère sur les journalistes français. C'est qu'en fait, c'est même pas qu'il est injuste, on s'en fout en fait. C'est qu'en fait, il est erroné. Les Français ont une image majoritairement négative des journalistes, voilà, des gens que je côtoie au quotidien. Et en fait, c'est erroné. Je dis pas que le travail journalistique est bon. Ben, je dis pas qu'il est qu'il peut pas être amélioré. Je dis pas que les journalistes français doivent pas aller davantage sur le terrain, revoir leur grille de lecture, essayer de mettre encore plus de côté leurs propres opinions. Je dis pas tout ça, hein. Mais en revanche, j'affirme haut et fort que la quasi-totalité des journalistes qui dans ce les gens qui sont dignes de ce titre en France sont des gens honnêtes, voilà, honnêtes dans leur volonté, qui est souvent une vocation, qui est un truc qu'ils veulent faire depuis longtemps, parfois depuis l'enfance, de vous informer de la meilleure façon possible. Voilà. C'est ma conviction, mais peut-être que je me trompe. Ah, ça y est, j'ai encore fait chier tout le monde avec mon édito, je suis désolé. Les amis, les garagistes aussi. Non, pas les... Oh, oui, Jacques, il dit les garagistes aussi. Les amis, merci. pour ça j'aime bien le stream du soir. Bon là, je me suis fâché tout seul comme souvent, mais je trouve que c'est un peu plus détendu, voilà, que je dis encore plus de bêtises que d'habitude, et vous aussi, j'aime bien cette ambiance du soir. Bon, pour le coup, j'ai réussi en deux jours à flinguer une partie de ma table de mixage et mes écouteurs. Il va falloir que j'arrête de mettre du liquide. Quand je parle de liquide, je parle d'eau, de coca, de café sur ma table. Je sais que ça n'est pas bien, mais il faut que j'arrête, voilà. Sinon ça va finir par me coûter une fortune. Je vous donne rendez-vous demain soir a priori, parce que maintenant, même quand on est à Question pour un champion, je suis en tournage actuellement pendant 7 jours. Allez, l'horoscope, c'est parce que c'est vous. Ok. Attends, je faisais mine de genre de ne pas avoir vu les messages sur l'horoscope. Je vous remets la tablette. Donc désormais, j'essaye, même quand on est à Question pour un champion, de streamer, donc non pas le matin, mais de streamer le soir. On va aller voir le Parisien. Ah, oh, voilà. Toc. Et donc, on se retrouve. Donc, vous savez quoi ? On va même aller voir l'horoscope de demain, puisque le Parisien de demain est arrivé. Je suis en train de le télécharger. Et donc, demain soir, on sera en stream sur l'actu. Et vendredi soir, on sera en stream sur l'hebdo Étienne. Voilà, on essaye d'être ici quasiment tous les jours. Allons voir l'horoscope du Parisien de demain. Comme ça, vous aurez votre journée. Évidemment, tout cela est très scientifique. Qu'est-ce que je vous posais comme question d'actualité pour vous départager sur l'actu ? Ok, pour voir ceux qui suivent un petit peu, c'est pas une question d'actu, c'est une question de fidélité. Donnez-moi votre signe astrologique et dans la même ligne, donnez-moi le jeu qu'on va découvrir, auquel on va jouer dimanche. Donc ça me plaît, c'est parti. Oh putain, le raid énorme, merci la cantine. La cantine, on va profiter de ton raid pour aller raid quelqu'un d'autre puisqu'on est en fin de stream, c'est adorable. Alors, je viens de poser la question, à quel jeu on joue avec mon invité dimanche dans Simplay ? Wow, j'accepte le wow de Neo, le wow pour World of Warcraft, Neo, mais les modos me disent que c'est Vierge qui a gagné, effectivement, pardon, Remake a été plus rapide. Remake plus rapide avec Vierge. Désolé, Néo. Et donc, c'est Vierge qu'on lit. Mais comme je suis sympa et que j'ai une qualité de zoom de psychopathe, en zoomant sur Vierge avec des bons yeux, vous pouvez lire Gémeaux et Cancer et Lion et Balance et Scorpion et Sagittaire. On est comme ça. Vierge, demain, enfin là, jeudi, voilà votre horoscope, les amis. Cœur, vous pensez que l'affrontement est inévitable. Ben non. L'amour, pas le compte, non. Vous pensez que l'affrontement est inévitable? Pas du tout. Non, pas du tout. Tu vois l'affrontement arriver dans le couple, qu'est-ce que tu fais? Tu esquives un pas de côté. Et la personne, l'être aimé en face de toi, qui donc te chargeait littéralement, hein, puisque voilà, l'affrontement, eh bien en fait, va aller s'écraser, lamentablement, comme une vieille crêpe, contre le mur derrière. Donc la réponse à l'agressivité dans le couple, hein, c'est le pas de côté. Voilà. Éventuellement, même tu laisses traîner un pied pour que la personne trébuche et va s'encadrer la tête dans le mur derrière. Donc non, je dis non à l'affrontement, je dis oui à l'évitement. Réussite, vous récolterez de brillants succès. Côté finances, vous ne jouez pas les paniers percés, ça ne vous ressemble pas. Bon, manifestement Vierge, vous savez régler votre budget. Forme, vous vous sentez très fatigué. Ah, Vierge, vous êtes fatigué. Ouais. Donc, moi, je conseille à tous les Vierges et à toutes les Vierges demain de ne pas aller travailler. Voilà. Je vous fais un mot. En plus, il est 23h21, il est beaucoup trop tard. Je vous fais un mot. Donc, envoyez-moi des DM sur Twitch, sur Twitter, voilà, et je vous fais un mot, je certifie, monsieur, madame, virgule, par la présente, je certifie que le dénommé, vous me donnez votre nom, voilà, ou le pseudo comme vous voulez, ne pourra pas se présenter au travail aujourd'hui en raison d'un état de fatigue avancé. Deux points, en effet, son signe astrologique est Vierge. Et là, la personne ira voir le Parisien, le RH, votre responsable, votre patron, et ira voir dans le Parisien que les Vierges, vous êtes fatigués, en fait. Voilà, c'est QFD, donc n'hésitez pas, je vous fais un petit mot. Voilà, comme ça, ben, vous avez la nuit devant vous pour aimer, pour regarder Netflix, pour jouer aux jeux vidéo. Voilà, et moi je suis là pour ça aussi, pour vous faire des mots. Voilà, c'est une des choses que propose cette chaîne. Voilà, vous faites des petits mots comme ça, n'hésitez pas. Comment ça, Paris a perdu 4-1? Il jouait contre qui, le PSG, ce soir? Juste pour moi. Après, on va faire un petit raid. Contre qui? Newcastle? Ok, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions, ça? 4-1 à Newcastle? Oulolo, sérieux? C'est possible, ça? Ouf. Ça pique, ça, non? 4-1, en vrai? À 4-2? Merci Amit, c'est hyper gentil. Ok. Les amis, je vous propose maintenant de faire un raid. Je lis vos propositions dans le chat pour aller soutenir un autre créateur, une autre créatrice de contenu. Ah non, c'est 4-1. Non, j'ai pas un petit sourire. Moi, je me réjouis pas du malheur des autres, et notamment les supporters parisiens. Voilà. J'aurais un sourire si c'était Rennes qui avait mis 4-1 au PSG. Ok, vous me faites des petites propales. Allez, on va où alors? Je vais pas vous mettre une pause. Hein. On va raid direct. Ouais, ok. Je coupe le son, hein, pour pas vous écouter. Pour vous ayez la surprise. De toute façon, j'ai mon Mac qui rame. On va faire ce qu'il y a au téléphone. Ne bougez pas, les amis. Ça va raid rapidement. Ah, si ça marche là. Ouais, ça a l'air cool ça. Ok, d'accord, ok. Quoi d'autre? Je regarde plusieurs propositions. Ouais. Un petit streamer Squeezie, me dit Sims Ganner. Moi, j'ai jamais entendu parler, donc. Pas du tout. Squee, comment vous dites? Moment, je l'ai raid il y a 2-3 jours. Peut-être même hier. Ouais. Je vois plusieurs personnes qui me proposent quelqu'un là que je connais pas, ok. Ouais, plein de propals, mais comment vous connaissez tous ces gens, c'est incroyable. Squeezie, c'est celui qui a fait le GP Explorer, me dit Dragon Wild. Je sais pas du tout. C'est le G, comment vous dites GP quoi? C'est quoi? Non, vraiment pas du tout. Moi, connaissance de cet univers. Squee, comment vous dites? Comment vous écrivez Squee? S-K-O-U-I-Z-I, c'est ça? Il y a ma fella qui dit j'adore cet humour. Ne dis rien, parce qu'il y a des, après, il y a des gens qui me prennent au premier degré. C'est ça qui est drôle. Ok. Oh, il y a plein de propales. Laissez-moi écouter quelqu'un. Attends, je mange mon téléphone. Ouais. Sinon, j'avais. J'ai vu quelqu'un qui m'intéressait aussi là. Tiens, ce serait drôle ça aussi. Oh, le son. Putain, mais il n'y a rien qui va ici. Hein. On n'a plus de sous, hein. C'est une catastrophe. Hein. Le Mac marche pas. La table de mixage est en train de rendre l'âme. Le casque, n'en parlons pas. Ok. Bougez pas. Ouais, non, bah non, mais il n'a pas besoin de nous. Hein. En même temps, c'est drôle ce qu'il fait. Ouais. Pardon, je suis lent, mais je prends mon temps, c'est Twitch. J'hésite. Ouais. Quoi? Attends, mais il est en live? Attends. Ah, parce que dans ce cas-là, oui. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Ah. Non, il est pas en live. Ben non. Ouais, quelqu'un m'a dit qu'Inforéa était en live. Voilà, vous lui aurez parlé de mes réparations. C'était pour la vanne. Super drôle, merci. Super. Nul! Ah, mais il est chez Cabri. Ok. Ah bah d'accord, alors. Ok. Eh ben on fait ça. Allez, ben c'est parti. Ok. On va chez Cabridi. Voilà. Et chez Cabridi, on retrouve un Foréa. Ok. Eh ben super. D'une pierre deux coups. Et voilà, ça charge. 165 viewers sur la chaîne et vous allez les rejoindre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie. Voilà. Je m'excuse d'être lourd sur les trucs. Voilà, j'ai des convictions sur des machins. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis à côté de la plaque sur la défiance que vous avez par rapport au monde du journalisme. Mais je suis là pour en parler avec vous et c'est un régal. Je vous souhaite une belle soirée. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Mettez-nous beaucoup d'amour dans ce monde. Bonne nuit ma couille, comme dit Jus dans le chat à l'instant. Je charge le raid. On se retrouve demain soir vers 20h30, ce sera un kiff. Et n'oubliez pas que bientôt, je serai un gamer et qu'on va streamer du gaming à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça va être n'importe quoi. Je vais plus me laver, je vais plus manger, je vais mettre des liquides partout. Non, cette phrase est super bizarre. 3, 2, 1, bonne nuit, à bientôt, à demain. Ciao, ciao.